lui-même, la discussion risque d'être un petit peu pauvre, un peu limitée, puisque on a juste les quelques documents qu'il y a là. Je pense que ce qu'on va peut-être faire, c'est simplement ce que disait Agnès, et c'est que le plus simple, c'est qu'on lise les points qui sont en français du document. J'ai aussi quelques copies de leur site web qui est de textes plus étendus qui sont en italien, s'il y a des personnes qui les veulent, qui sont intéressées par ces textes-là. Mais ce que je vous ai fait passer, à part la première page et puis la dernière, c'est en français. Donc, simplement, je propose qu'on lise ces textes, qu'on dise, Agnès et moi, peut-être un petit peu, quelques commentaires dessus, toi, si tu veux après, et puis qu'on fasse une discussion un peu libre. Je pense qu'il y a plusieurs points dans ces textes qui sont intéressants à discuter. La démarche. Je pensais aussi que ça serait intéressant de parler un peu du mouvement antispéciste, du mouvement pour les animaux à un niveau international. Puis antispéciste et pour les animaux, c'est pas la même chose. Les estivales ne sont pas non plus un rassemblement antispéciste, tout le monde ici n'est pas antispéciste, mais je pense que c'est intéressant de discuter un petit peu de comment est le mouvement en France, comment est le mouvement en Italie, comment est le mouvement aussi dans d'autres pays. Je pense qu'il y a pas mal de choses à en dire. Je pense aussi que c'est intéressant de discuter d'une chose qui me paraît intéressante dans cette démarche, même si je ne suis pas d'accord avec le résultat, c'est la volonté d'unité. Cette démarche part aussi un petit peu d'une certaine volonté d'unité autour d'un manifeste qui est censé représenter des positions communes à l'ensemble du mouvement antispéciste ou du mouvement pour les animaux. Je pense qu'il y a un objectif qui est très valable dans cette volonté d'unité. En même temps, je pense que c'est seulement. Enfin, je ne suis pas d'accord avec la manière dont c'est fait et je pense que ce n'est pas possible de procéder de cette manière-là aujourd'hui. Mais donc, ça, on peut en discuter peut-être ultérieurement. Mais bon, c'était juste peut-être deux mots d'introduction, j'en ai déjà trop dit. On peut passer. Si vous êtes d'accord à ce qu'on procède de cette manière-là, je vais lire à haute voix un peu ce que vous avez sur votre document, comme ça on aura un petit peu parcouru ces choses-là. Agnès, si tu veux dire quelque chose, donc c'est. Bon. Donc en commençant par la deuxième page, puisque la première est en italien et la deuxième, c'est la traduction de la première. Donc ça s'appelle Movimento Antispecista, qui veut dire mouvement antispéciste. Donc l'intention du mouvement antispéciste est de répandre l'éthique aspéciste. Donc il parle d'éthique aspéciste, je suppose que ça veut dire pas simplement antispéciste qui s'oppose au spécisme tel que c'est aujourd'hui, mais simplement le fait, dans un sens un peu positif, d'avoir une éthique qui soit non spéciste. Et d'aider les membres qui travaillent en association, parti ou organisation pour assurer une législation aspéciste.
Il faut peut-être expliquer ce que c'est que le spécisme.
Oui, c'est vrai. Oui. Mais bon, disons que le spécisme, c'est aussi quelque chose qui. La définition du spécisme, ils en donnent aussi une définition à eux du spécisme à travers justement leur déclaration qui suit, qui est une déclaration qui dit voici ce qu'une une éthique non spéciste. Mais je peux peut-être dire un petit peu ce qu'est le spécisme pour moi, parce que c'est un terme qui n'est pas forcément défini par tout le monde de la même manière. Enfin, je pense que le spécisme de façon générale, c'est simplement le fait de c'est quelque chose d'analogue, enfin c'est un concept analogue formé par analogie avec le racisme ou le sexisme, qui sont le fait de commettre des discriminations arbitraires, non justifiées, entre individus sur la base de leur appartenance à un certain groupe Donc des discriminations, pas simplement le fait de faire des discriminations, c'est normal de faire des discriminations. On accorde par exemple le droit d'avorter aux femmes, mais pas aux hommes, parce que ça n'aurait pas de sens. Ou on accorde par exemple le droit de voter aux humains, mais pas aux poules, parce que ça n'aurait pas de sens de leur donner le droit de vote. Encore que, à mon avis, mais pourquoi ça vous fait... Non, mais je veux dire, le droit de vote, dans le sens habituel, où on considère, on va dire aux poules, vous pouvez venir à tel jour voter dans l'isoloir, c'est clair que ça n'a pas de sens. Mais bon, je pense que dans un autre sens, les poules peuvent voter et bon, mais ça c'est un autre problème. Bon, disons que c'est pour dire que c'est pour ne pas... Enfin, le spécisme, c'est le fait d'établir des discriminations arbitraires, par exemple de dire, lui c'est un noir, donc il est normal qu'il aille cultiver du coton toute la journée et qu'on le récompense avec des coups de fouet, ce qui se faisait à une époque, simplement sur la base du fait qu'il est noir. Ou parfois, on ne dit pas simplement c'est sur la base du fait qu'il est noir, mais on développe, on dit la noirceur de sa peau reflète la noirceur de son âme, c'est-à-dire il y a quand même une construction qui essaye de justifier derrière ça. De la même façon que pour le spécisme, c'est rare de trouver un spécisme parfois parfaitement nu qui dit simplement c'est juste parce qu'il appartient à une autre espèce qu'on a le droit de le tuer pour la viande, ou qu'on a le droit de le manger, ou de ne pas tenir compte de ses intérêts. C'est rare d'avoir quelque chose qui soit aussi net que ça. Par contre, on s'en rend très bien compte que quand les gens disent les animaux sont moins intelligents que nous, les animaux sont incapables de respecter nos droits, ou des choses comme ça, donc nous n'avons pas à respecter leurs droits, il y a un certain raisonnement qui cherchent à justifier le fait que nous ne respections pas leurs droits, mais en même temps, on se rend compte que c'est un raisonnement qui, en définitive, est quand même basé sur un critère d'espèce, puisque, par exemple, les gens qui disent les animaux ne sont pas capables de respecter nos droits, donc nous n'avons pas besoin de respecter les leurs, ne diront pas ça d'un handicapé mental humain qui n'est pas capable de respecter nos droits. Ils ne tiendront pas le même raisonnement, ils ne diront pas qu'on a le droit de... Voilà. Donc le spécisme, en tout cas tel que moi je le vois, c'est ça, c'est le fait de ne pas respecter les intérêts des individus simplement parce qu'ils n'appartiennent pas à notre espèce. Je voudrais préciser, parce que c'est quelque chose, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ça, mais je pense que c'est important, le terme individu. C'est-à-dire que le spécisme, c'est pas de dire une espèce est supérieure à l'autre, c'est le fait de dire les individus d'une espèce sont supérieurs à l'autre. Parler en termes de supériorité d'une espèce par rapport à une autre, pour moi, c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup de sens. C'est-à-dire que j'ai pas envie de dire que les espèces sont égales. Ça, pour moi, ça n'a pas de sens de dire... Parce que les espèces ne sont pas des entités qui peuvent souffrir, ne sont pas des entités qui ont des volontés de bien vivre. Donc, bon. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour clarifier un petit peu la notion d'espèce, de spécisme. Donc, je continue. On a fait trois lignes. Donc, le Movimento Antispecista, sa déclaration a pour principe suivant ne pas tuer. Donc, le premier principe, ne pas tuer, ne pas faire souffrir ni discriminer les êtres sensibles et conscients. Donc, ça parle des animaux, ça parle pas des plantes. Deuxièmement, ne pas utiliser des ressources qui cause la souffrance à des êtres sensibles et conscients. Je suis pas sûr que... Enfin bon, en tout cas c'est comme ça qu'ils l'ont traduit. Donc ce mouvement, il a établi un manifeste donc pour une éthique aspéciste ou pour une éthique interespèce, qui est sur la page suivante. Donc le manifeste suivant qui a été développé par A Species Ethics Working Group veut remplacer la Déclaration universelle des droits des animaux, la DUDA, donc qui est une déclaration qui existe, qui a une valeur qui se veut internationale, qui est surtout française, en fait, c'est celle, quand on dit la Déclaration des droits des animaux, de l'UNESCO, donc qui est une déclaration qui n'interdit pas, par exemple, de manger les animaux, mais qui est extrêmement formelle à un certain niveau de respect des animaux, respect du corps mort de l'animal, etc., mais qui en fait accepte qu'on utilise les animaux comme ressources pour nous. Donc, eux, ils ont l'intention de remplacer cette Duda de 1978. Donc, le manifeste a été inspiré par la carte de 2000 de septembre 1999, dont il y a une copie à la fin de ce document, édité par la LIDA, et soutient la carte avec des significations plus profondes dans les domaines éthiques et sociaux. Donc, les articles du manifeste du Movimento Antispecista sont les animaux, humains et non humains, en tant qu'êtres sensibles et conscients, ont tous les mêmes droits à la vie, à la liberté, au respect, au bien-être et ne peuvent être discriminés. Ouais. Article 2, les hommes, comme tous les êtres sensibles reconnus en tant qu'agents moraux, doivent respecter les droits précités, renonçant à des idées anthropocentriques et spécistes. Article 3, dans le cadre de cette relation, la nourriture et autres produits dérivés des autres espèces peuvent être obtenus à la seule condition de ne causer ni meurtre, ni souffrance ou altération biologique et sans compromettre les besoins éthologiques. Donc en tout cas, c'est clairement que ça exclut la viande. Autant que possible, ils doivent être remplacés par les produits d'origine végétale et inorganique. Donc ça préconise autant que possible une alimentation complètement végétalienne. Article 4. Tuer, faire souffrir des animaux d'autres espèces, par exemple les soumettre à des travaux forcés, les utiliser dans des activités brutales, manifestations ou fêtes, les élever par des procédés non naturels, ou encore réaliser des expériences sur des individus sains dans l'intérêt d'autres espèces ou d'autres individus, leur causer des dommages physiques ou psychologiques, emprisonner des individus d'espèces naturellement autonomes ou détruire leur habitat, ou encore utiliser de la légitime défense de manière excessive, consiste en une volonté, violation des droits précités et est donc considéré comme un crime. Article 5, la recherche scientifique sera soumise à des contrôles sévères pour assurer l'adhésion aux principes cités ci-dessus. Le principe de précaution doit également être respecté en ce qui concerne les autres espèces. Bon, ensuite, il y a des développements, quelques petits développements de ça. Le montage a été fait à l'envers, donc la suite, c'est introduction. Il faut sauter la page suivante. Donc, introduction. En tant que morale actuelle, c'est-à-dire la majorité des personnes, en tant que la moralité actuelle, c'est-à-dire la majorité des personnes, continuera à considérer les autres êtres vivants comme des objets et non comme des sujets, c'est-à-dire des êtres conscients et sensibles à différents niveaux, comme les êtres humains, chaque voix en leur faveur restera lettre morte. Pour dépasser cette barrière, il faut premièrement que la plupart reconnaissent les origines et les conséquences de la culture spéciste, afin que ressurgisse le sentiment effacé par son imposition, le respect de l'homme pour les autres espèces. C'est pour les autres espèces qu'il faut dire. Donc ensuite, les critères d'information du mouvement antispéciste. Le racisme justifie la lutte entre les espèces et dans la même espèce avec le principe amoral de la sélection naturelle. C'est à cause de cela que la classification des êtres vivants, y compris humaines, est basée sur des présupposés niveaux de supériorité, leur reconnaissant arbitrairement le droit à la vie, à la liberté, au bien-être et à l'égalité. Le spécisme limite ce concept aux espèces différentes de l'espèce humaine, retenant seulement cette dernière digne de droit, de tel droit, sur la base d'une conception exclusivement anthropocentrique. L'éthique aspéciste à laquelle le mouvement se réfère naît du principe que le droit à la vie, à la liberté, au bien-être et à l'égalité ne peuvent être niés à aucun être conscient et sensible. Bon, je ne sais pas si c'est très clair, je crois qu'il y a eu quelques petits problèmes de traduction, mais bon, grosso modo, c'est que le racisme commet une discrimination, y compris à l'intérieur de l'espèce humaine, sur la base d'idées telles que la sélection naturelle, que le spécisme non raciste n'est pas raciste à l'intérieur de l'espèce humaine, mais commet la même discrimination à l'extérieur de l'espèce humaine, et que l'éthique aspéciste, non spéciste, dit que cette discrimination ne peut être niée vers aucun être conscient et sensible. Donc là encore, on retrouve l'idée d'animaux, c'est-à-dire les êtres qui ressentent quelque chose. La simple différence biologique avec d'autres individus ou d'autres espèces ne peut constituer un préjugé à la jouissance des droits fondamentaux, même en tenant compte des exigences de chacun. En outre, il est scientifiquement prouvé que les animaux sont des êtres sensibles, que l'homme n'a pas la nécessité d'une alimentation carnée, et que les produits d'origine animale peuvent être substitués par d'autres produits d'origine végétale. Par conséquent, les traditions spécistes qui font croire que l'existence de l'animal est destinée à l'homme trouvent de moins en moins de justifications. L'éthique spéciste devra donc être graduellement abandonnée. Cela arrivera d'autant plus rapidement que l'on parviendra à mieux diffuser les justes connaissances. Le mouvement antispéciste suit les principes fondamentaux suivants. Premièrement, ne pas tuer, ne pas faire souffrir et ou discriminer les êtres sensibles et conscients. Deuxièmement, ne pas utiliser des ressources engendrant la souffrance des êtres sensibles et conscients. Et donc, on arrive à la dernière partie, donc la justification du mouvement antispéciste. Le mouvement antispéciste considère spéciste la Déclaration universelle des droits des animaux, donc celle dont je vous parlais tout à l'heure, présentée à l'UNESCO le 15 octobre 1978, qui admet de tuer les animaux allant à l'encontre de ses propres principes. C'est vrai que c'est une déclaration qui dit il faut respecter la vie de tout animal, on n'a pas le droit de le tuer, et puis ensuite qui dit l'abattage doit se faire sans souffrance. Enfin bon, c'est un peu contradictoire. Mais par contre, donc le mouvement antispéciste adhère pleinement à la charte de Mill de la LIDA, que vous avez aux pages suivantes, j'essaierai de faire une petite traduction rapide, de septembre 1999, qui revendique la parité et les droits à la vie de toutes les espèces animales. La cause antispéciste ne peut être représentée par des groupes qui se réclament d'une telle déclaration, donc de la LIDA, mais plutôt par des personnes qui voudraient répandre les principes antispécistes sans accepter aucun compromis politique, tout en considérant la nécessité de procéder peu à peu à la modification de la législation actuelle. L'objectif principal du mouvement antispéciste est de diffuser l'éthique aspéciste et de soutenir les adhérents qui ont des rôles prépondérants au sein d'associations, partis ou d'organismes institutionnels, dans le but d'établir une morale actuelle afin de permettre la création d'une législation non spéciste et d'en finir avec l'idée que certains animaux sont plus égaux que d'autres. Par ailleurs, le mouvement respecte le rôle que chaque association animaliste s'est donné en reconnaissant leur utilité pour la défense de la cause commune et se place en rassembleur des instances du problème animaliste qui ont pour objectif l'abolition de l'abattage et de l'exploitation des animaux, considérant donc cet abattage et cette exploitation comme injustifiables, tout comme pour l'homme. Voilà. Et enfin, donc cette carte à 2000, qui est une charte dont il se réclame, qui semble-t-il est indépendant de la déclaration qu'on vient de voir, et qui se veut un remplacement non spéciste de la LIDA. Donc, étant donné que la vie est une, que tous les êtres vivants ont une origine commune et que dans le cours de l'évolution s'est diversifié, tous les êtres vivants sont des sujets interdépendants, coexistants et auto-organisés dans l'équilibre naturel, et considérant que tout individu est porteur de droits naturels à la vie, à la liberté et à la dignité, nous, animaux humains, considérons que notre espèce n'est pas au centre de l'univers, n'est pas non plus propriétaire du monde, et au nom de la justice interspécifique, nous approuvons ce qui suit. Nous nous engageons à respecter et à faire connaître, tous les animaux ont un droit égal à l'existence dans le cadre de l'équilibre biologique de la diversité des espèces et des individus. Tout animal a droit au respect. Tout animal a droit à ne pas être soumis à la souffrance, à la cruauté, au mauvais traitement, pour aucun motif ou fin, à ne pas être tué, si ce n'est pour la défense légitime et urgente, à ne pas être possédé, à ne pas être propriété, donc, à ne pas être commercialisé, ni utilisé, ni détenu, ni rendu esclave pour aucune fin, à ne pas être élevé, transporté, commercialisé, tué ou tué pour l'utilité de l'homme, à ne pas être objet d'expérimentation scientifique, médicale, d'enseignement commercial, d'industriel ou guerrière, à ne pas être utilisé ou tué pour le divertissement, enfin l'amusement, pour le sport, pour le spectacle, pour les fêtes, pour les manifestations et les rites religieux ou populaires d'aucune sorte. Aucun animal considéré comme sauvage ou à demi-sauvage, non, tout animal considéré comme sauvage ou demi-sauvage a droit à vivre en liberté et à se reproduire dans son propre habitat, son propre... habitat. Enfin. Le fait de tuer un animal est un biocide, donc un crime contre la vie. Le fait de tuer un grand nombre d'animaux est un génocide, donc un crime contre l'espèce. La pollution et la destruction de l'environnement sont des facteurs de génocide. Les droits des animaux et leurs garanties, enfin leur tutelle, doivent être connus légalement par la communauté des êtres humains. Voilà, donc... Et donc apparemment, ça c'est un manifeste. Il y avait un certain nombre de signatures qui suivaient. J'ai pas imprimé la liste, mais c'était du style d'une page. Hein. C'était pas quelque chose avec des centaines de milliers de noms. Voilà, donc j'ai fini la lecture du document. Maintenant, je sais pas. Biocide dans son origine, ça veut dire le fait de tuer la vie, quoi. Je sais pas, est-ce que toi tu veux dire. Je te laisse la parole. Oui, mais moi je parle toujours trop. Alors. Disons que bon, moi mon point de vue sur cette déclaration, c'est comme je disais, c'est que d'une part ça part d'un point de vue qui est d'une intention qui me paraît juste. C'est quelque chose qui a été signé apparemment. Ça demande aux gens de signer cette déclaration. Donc c'est quelque chose où ça demande une adhésion, je crois, en tant qu'individu ou en tant qu'association. Ils ont aussi formé une association basée sur cette déclaration qui est une sorte d'association, je crois, qui rassemble des membres de différentes associations qui cherchent à réfléchir à l'avancement de cette déclaration et peut-être la reformulation, la correction de la formulation de cette déclaration, donc qui a un peu des travaux. C'est un côté, je trouve, un peu bureaucratique par rapport à ça. En même temps, bon, comme je disais, je trouve que le but, c'est-à-dire d'arriver à une base idéologique commune, c'est quelque chose que je trouve qui est un bon objectif, qui a un bon objectif dans la mesure où ça peut être possible. En même temps, de fait, par exemple, cette déclaration, il y a énormément de points où moi je ne suis pas d'accord. Où je ne suis pas d'accord avec la formulation carrément avec ce qui est dit, où je ne suis pas d'accord avec la manière dont les choses sont introduites. Par exemple, dans la carte d'où est mis le truc, le document qui est à la fin, le fait de commencer par parler de l'unité de la vie ou des choses comme ça, je trouve que c'est quelque chose qui tend à mettre au centre une question, la vie comme étant quelque chose ayant une valeur en soi, c'est-à-dire bon, simplement l'existence biologique. Or, pour moi, par exemple, les plantes ou des êtres qui n'ont pas de, qui ne ressentent rien, n'ont pas de, d'importance morale. C'est-à-dire, moi, ça ne me dérange pas de torturer un brin d'herbe. Je ne pense pas qu'on puisse torturer un brin d'herbe. C'est-à-dire, je pense que ça n'a pas de sens. Ou de tuer un brin d'herbe, je pense que le brin d'herbe n'a aucun droit à la vie, parce que le brin d'herbe n'a aucun désir d'être vivant. Oui.
Je crois que là, il y a deux obstacles majeurs, je trouve. Et le premier, justement, c'est de tracer la frontière entre les êtres conscients et sensibles et les autres. Et à mon avis, c'est impossible de trouver une frontière. On a essayé de tracer une frontière à l'humanité. Aristote a dit l'homme libre est différent par nature, différent de l'esclave, puisqu'il n'est pas fait pour les grands travaux difficiles, etc. etc. Quelques siècles plus tard, on a tracé la frontière entre les blancs et les noirs, puis on la trace entre les humains et les primates, et puis en ce moment, on essaye, certains scientifiques essayent de la déplacer au-delà des primates supérieurs. Dit supérieur, gorille, etc. Et on ne trouvera pas une frontière. C'est impossible de tracer une frontière à partir de laquelle les êtres ne sont plus sensibles. Et, vous comprenez ce que je veux dire? C'est un des obstacles majeurs, ça, à mon avis.
Ça s'appuie sur quoi?
Et le deuxième obstacle majeur, c'est qu'avec une réglementation comme ça, vous condamnez la prédation. Or, la nature, elle est construite, malheureusement, sur la destruction d'espèces par d'autres. Si vous supprimez la prédation, vous supprimez tout écosystème.
Je pense que, enfin, sur le premier point, je pense que... Sur le premier point, je pense que c'est une question qui est réelle. Où s'arrête la sensibilité? Mais en même temps, moi, je pense qu'il est totalement justifié de poser que c'est la sensibilité qui importe. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on ne sait pas où ça s'arrête. Mais là, en même temps, on rentre dans le fond d'un certain débat. Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'on l'ait ici. Je pense que c'est intéressant à l'avoir. Simplement, ce que je voulais, c'était juste poser le fait que moi, je ne suis pas d'accord avec l'idée de mettre au centre la vie. Je pense qu'il faut mettre au centre la sensibilité, que c'est effectivement cette frontière-là, même si je suis d'accord qu'on ne sait pas quels sont les êtres qui sont sensibles à un certain niveau. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si les mouches sont sensibles, on ne sait pas... Il y a un niveau forcément où on ne sait pas où est la frontière. Mais de la même façon qu'on ne sait pas à quel moment un fœtus devient sensible, s'il devient sensible.
C'est clair, par exemple, vous arrivez à... rassembler des gens contre la chasse, parce que les mammifères en particulier sont essentiellement des êtres sensibles et conscients, mais déjà pour la pêche, c'est déjà plus difficile.
Est-ce que votre point de vue serait que...
Dans l'esprit de beaucoup de gens, le poisson n'est pas un être conscient et sensible.
Oui, mais votre point de vue serait qu'il ne faudrait pas faire de discrimination, c'est-à-dire qu'il faudrait considérer qu'on doit respecter toute vie. Non, mais enfin, c'est une question que je pose.
C'est un des obstacles, c'est de trouver la frontière.
Mais c'est toujours
Moi, je suis tout à fait d'accord que c'est un obstacle, oui. Enfin, je suis pas d'accord qu'il n'y en a pas, mais je suis d'accord que c'est...
Mais bon. C'est vrai que c'est le choix politique, biocentrisme ou patocentrisme, sur quoi on se fonde. Est-ce qu'on se fonde sur la sensibilité comme valeur? Mais là, pour tracer une frontière, ou est-ce qu'on se fonde sur la vie?
Je pense que c'est un rêve.
La vie me semble plus simple à définir que la sensibilité, effectivement. Dire que les végétaux ne sont pas sensibles, c'est une prise à se faire contredire clairement, parce qu'on a prouvé l'inverse. Bon, la conscience, c'est encore autre chose. Sur la sensibilité des végétaux, c'est incontestable. La conscience, c'est un autre problème.
Bon, je voudrais juste dire, par rapport à la prédation, ça c'est un deuxième point sur lequel je suis pas d'accord, mais au contraire de ce que vous avez dit, dans le sens que j'ai le sentiment que cette déclaration contourne le problème de la prédation quand il dit disons que tout animal a droit à l'existence dans le cadre de l'équilibre biologique. C'est-à-dire, implicitement, ça veut dire que ce droit à l'existence, ils le soumettent à l'équilibre biologique, c'est-à-dire ils disent on va quand même pas empêcher les renards de chasser les souris. Or, je pense que qu'un point de vue non spéciste, pour le moins, doit considérer que la prédation est un problème. Est un problème et quelque chose qui ne... Je vois mal comment on peut justifier de dire que la prédation, c'est normal, c'est la nature, n'est pas... elle cause une souffrance, je veux dire, elle cause une souffrance.
Tout système écologique, tout système tient sur la prédation, c'est pas possible autrement. La vie n'existe pas s'il n'y a pas de prédation. Vous supprimez les loups dans le système dans le nord du Canada, c'est la végétation qui disparaît. Vous voyez, c'est un équilibre. Un équilibre, la prédation fait partie de cet équilibre. Depuis qu'on a réintroduit le loup dans le Yellowstone, l'équilibre écologique du parc est bien meilleur qu'avant.
Bon, moi je ne suis pas d'accord, mais je voudrais que simplement essayer de un peu coiffer ce débat en disant que justement le constat qu'on n'est pas forcément d'accord sur ces points-là, c'est une des choses qui fait que je pense que c'est pas possible de faire une déclaration qui résume ce que devrait être une éthique antispéciste. Une éthique non spéciste, on n'est pas. Je pense que sur des points difficiles, comme la question de savoir quelle est la frontière entre les animaux, en fait, entre les êtres sensibles et non sensibles, à un niveau plus pratique, simplement de déclarer des choses minimales du style est-ce que les plantes sont sensibles ou non sensibles. Je pense que les plantes ne sont pas sensibles. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est quelque chose de relativement clair. Toi, tu dis précisément le contraire, que pour toi, c'est très clair de... Pardon ? Ah, mais je suis tout à fait d'accord qu'on peut parler à ces plantes, mais je veux dire, moi, ça m'arrive même de parler au mur. Hein.
Le fait, c'est que ça fait vibrer, il y a de la plante, et ça la fait croître mieux que ce que vous mettez peut-être un milieu chimique.
Des expériences que j'ai aussi avec du plant tomate, c'était pour lequel on avait fait écouter de musique,
peut-être de remettre à plus tard les discussions sur les différents points pour aborder le problème général de la déclaration et ensuite tous ces petits points, ça vaut peut-être le coup, mais sinon on ne va jamais arriver au problème général de la déclaration. Mais ça vaut le coup d'aborder ces sujets-là, et si on faisait maintenant, on va se perdre dans 100 000 petits trucs. Hein.
Mais disons, je ne sais pas exactement ce qu'il y a à dire de plus que ce que j'ai dit. En tout cas, moi, je crois que j'ai dit à peu près ce que je voulais. Enfin, si, je pourrais continuer à détailler les points où je ne suis pas d'accord avec cette déclaration, mais ce n'est pas forcément important de faire tous les détails sur lesquels moi, personnellement, je ne suis pas d'accord. Avec ce qui me semble intéressant, enfin, en tout cas, le point qui me semble dont j'aurais envie de débattre, enfin simplement de constater, c'est le fait que c'est de se poser la question quelles sont les conditions d'unité du mouvement, ou est-ce qu'on veut avoir une unité de mouvement, est-ce qu'on peut même parler d'un mouvement, est-ce que le mouvement devrait pouvoir fonctionner avec ce genre de déclaration. Je pense aussi à d'autres choses, comme récemment il y a eu des débats assez orageux sur une liste contre la vivisection, et il y a une chose qui m'a frappé, c'est que les personnes qui étaient en désaccord avec quelques personnes dont j'étais, fonctionnaient avec un, je dirais, avec des slogans. Par exemple, non à toute vivisection. Le nom de la liste s'appelle No Vivisection, c'est-à-dire aucune vivisection. Abolition totale. Pardon ? Oui, tout le monde n'est pas familier de ces choses-là. Donc c'est une liste de discussion, les gens échangent des choses sur Internet. Et donc c'est une opposition totale et radicale à la vivisection, donc avec des formulations qui ont une formulation qui se veulent extrêmement précise, claire et carrée. Et moi, j'ai le sentiment que dès qu'on se met à creuser ce que ça veut dire, ça ne veut plus dire grand-chose, quoi. Ça veut avoir une force extrêmement grande, et je dirais avec une certaine façon, ça mimique les déclarations des droits de l'homme aussi d'une certaine façon. Il y a une tendance à vouloir simplement faire un décalque des déclarations des droits de l'homme en faisant des déclarations pour les animaux. Je pense qu'aujourd'hui, bon, moi je suis très critique aussi par rapport à la formulation des déclarations des droits de l'homme, mais je pense que c'est quelque chose qui fonctionne encore beaucoup moins pour les animaux. Par exemple, dire on a le droit de tuer aucun animal, mais moi je sors et je marche sur des fourmis, quoi. Je ne peux pas dire que je respecte et même que je fasse un effort très grand. J'évite de marcher sur les fourmis quand je les vois, ou parfois j'évite de marcher sur l'herbe, j'aime pas marcher sur l'herbe à cause de tous les insectes qu'il y a dedans, mais ça va pas plus loin que ça. Je pense pas qu'on puisse faire une déclaration « je respecte les droits de tous les animaux ». Je pense pas qu'on puisse raisonner par des... Et au contraire, j'ai le sentiment que le mouvement antispéciste ou le mouvement pour les animaux devrait se développer par la convergence ou la divergence d'une certaine façon d'un grand ensemble de courants qui peuvent être en désaccord sur beaucoup de points entre eux, qui peuvent en même temps essayer de dialoguer. Je pense que c'est le but des estivales aussi, c'est d'arriver à ce que des courants qui sont même extrêmement peu d'accord entre eux puissent dialoguer et simplement se reconnaître comme des interlocuteurs valables, comme des gens à qui on parle, quoi. Parce que parfois, dans les mouvements, on ne parle pas, quoi. On a eu sur l'exemple justement sur la liste de vivisection où le dialogue s'avérait impossible. Je pense que c'est important de pouvoir maintenir le dialogue, de chercher parfois des formulations qui mettent tout le monde d'accord, ou en tout cas qui mettent beaucoup de gens d'accord, mais pas d'espérer avoir un corps de doctrine ou même un corps de préceptes précis que nous saurions, qui définiraient nous qui sommes les bons par rapport au reste de la société qui sont les mauvais, et qui feraient cette frontière entre nous et le reste de la société. Je pense que ça, c'est un système qui ne fonctionne pas. Voilà. Bon, je crois que j'ai dit ce que je voulais dire, donc je me tais.
Je voulais dire des choses sur la déclaration. Alors, je ne suis pas à l'aise à vérifier un document que je suis censée présenter, mais comme David l'a dit, je ne partage pas le movement antispéciste. Et je partage les remarques de David. Moi, je suis philosophe, alors vous voyez, je n'aime pas les formulations très synthétiques. Je vois tous les problèmes qui sont derrière, par exemple le problème de la sensibilité, le problème de la conscience. Je crois qu'il est un peu superficiel de parler de faire ces affirmations sans. C'est qu'il y a derrière une discussion ouverte sur ces problèmes qui sont vraiment énormes. Et surtout, il me semble qu'il n'est pas le fait que le but de ce document est tout simplement de changer la loi, changer la législation, tu l'as lu. Et le premier but est changer la législation. Le deuxième est diffuser des informations, des renseignements au public pour dire qu'on peut survivre sans manger les animaux et tout cela. Mais ça me semble un peu trop simple que les gens vont changer d'avis seulement si on leur dit que on peut survivre étant vegan, parce que la question est beaucoup plus complexe. Alors, parce que on dit que... Alors, nous, animaux humains, c'est dans la carte 2000, nous, animaux humains, nous pensons que notre espèce n'est pas au centre de l'univers. Alors, vous voyez, c'est une phrase énorme, elle entraîne beaucoup de problèmes. Alors, il faut que les gens réfléchissent sur le problème de la sensibilité des animaux, de la conscience des animaux, la souffrance des plantes, mais surtout sur l'identité des humains. Parce que si on n'accepte pas la division entre les humains et les autres animaux, si on dit que l'homme est un animal parmi les autres, si on dit que l'homme n'a pas le droit de faire n'importe quoi aux animaux, alors il faut qu'on donne une nouvelle image de l'homme même. Et c'est pas simple, vous voyez, et surtout si les gens qui partagent le mouvement, l'antispécisme ou l'animalisme, sont croyants, parce que c'est pas simple, dans le cadre d'une religion, surtout d'une religion chrétienne, dire que l'homme est un animal égal aux autres animaux, parce que ça. Remis en question toute l'idée du christianisme. Voilà, alors ce document c'est vraiment trop général et trop superficiel, selon moi. C'est tout.
Et par rapport à la déclaration d'origine,
la déclaration française, la Duda.
Voilà.
Désolé, je n'ai pas lu.
C'est mieux.
Non, je lis des morceaux dans un article de Yves, mais Yves les a critiqués. Et alors.
Tu lui fais confiance?
Oui.
Je peux dire très rapidement là ce que je pense moi, de cette déclaration. Elle a été créée par une organisation française qui s'appelle la Ligue française des droits de l'animal.
Tu parles de la Douda?
Oui.
La déclaration universelle des droits de l'animal.
C'est celle de Préfère, non?
Oui, c'est ça. C'était,
c'est celle de Préfère?
Non, c'est Jean-François Nouet.
C'est Jean-François Nouet et puis Kessler qui a d'affiché.
C'est du Chapoutier.
Ouais. Chapoutier aussi.
Et c'est une déclaration qu'ils ont écrite à quelques-uns et qu'ils ont été proclamés sur le seuil de l'UNESCO en disant que ça avait été proclamé à l'UNESCO. Mais en fait, ils étaient trois devant l'UNESCO, personne n'avait été prévenu, ils ont lu la déclaration. Et ça leur a suffi pour dire qu'elle avait été proclamée à l'UNESCO en 1978.
Oui, ils ont une salle, je crois. Non, pas une maison.
Mais bon, grosso modo. Et c'est une déclaration qui annonce des grandes généralités, oui, de l'unité de la vie, on est tous de la même famille, etc. Pour ensuite déclarer solennellement le droit de l'animal au respect, etc. Et quand on se penche sur les conséquences concrètes, ce que ça doit entraîner de changement dans nos pratiques envers les animaux, il n'y a pratiquement rien qui change. C'est-à-dire que les élevages et les abattages restent cautionnés, la pêche industrielle reste cautionnée, et c'est des petits points de détail qui changent. Je crois qu'ils condamnent plus ou moins la pêche de loisirs, ils condamnent la vivisection tant qu'on n'a pas trouvé d'alternative, en fait des trucs comme ça. Et en fait, c'est une déclaration qui se dit non spéciste, antispéciste, contre le spécisme, donc contre cette discrimination arbitraire basée sur l'espèce, mais en définissant le spécisme non pas comme la discrimination que les humains exercent à l'encontre des autres animaux, mais comme le fait de mettre sur un même plan un cheval et un âne. C'est-à-dire qu'il vide la notion de spécisme aussi de tout son sens. Et je pense que cette déclaration, effectivement, c'est. Une déclaration en fait qui est nuisible, qui ne change pas grand-chose pour les animaux, qui est basée sur des principes qui sont complètement hétéroclites et qui sont extrêmement critiquables, voire qui se contredisent entre eux. Et en plus, qui vide cette notion de spécisme de son contenu. Alors je pense que c'est une notion qui est extrêmement intéressante, extrêmement importante, parce qu'elle est extrêmement riche de débouchés aussi très solides au niveau logique, quoi. Et donc, oui, moi j'avais écrit, effectivement, j'ai écrit un ou deux articles où je prenais en revue tous les articles de cette. Et toutes les phrases, grosso modo, de cette déclaration pour les analyser et pour les critiquer. Et j'avais été étonné de voir que donc ces Italiens-là, justement, avaient en lisant cette déclaration, ressenti le besoin de faire autre chose, quoi. Et je trouve que ce que tu fais est effectivement mieux, mais pêche un petit peu des mêmes, quand même un petit peu des mêmes critiques que j'ai par rapport à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Voilà. C'est, pour caricaturer, on pourrait dire que cette Déclaration universelle des droits de l'animal, donc de la vie française, c'est une déclaration a tué humainement, quoi.
C'est une déclaration, pardon
Des droits de l'animal à être tué humainement.
Mais à part déclarer que les humains sont végétariens, il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Vous remarquerez que les chasseurs, dès qu'ils font une déclaration, ils annoncent que l'homme est un prédateur naturel. Toujours. Moi, je réponds que c'est pas un prédateur, c'est un destructeur, puisqu'il a amélioré sa. Si je leur dis toujours, si vous attrapiez les affaires à la course avec vos dents, je serais d'accord.
Non, c'est pas, mais ce qui,
voilà, ce qui veut dire que l'animal humain est quand même un prédateur naturel, hein, c'est pas, on ne peut pas se le cacher. Hein.
On peut dire certains êtres humains sont prédateurs, certains autres ne le sont pas, et pas généralisant en disant l'homme est ceci ou cela.
On ne peut pas parler des hommes en les prenant un par un. Même les chimpanzés qui vivent les trois quarts du temps sont végétariens, de temps en temps, ils tuent pour manger de la viande. La prédation, je suis contre hein, que les hommes tuent les animaux. J'ai l'air là de m'élever contre. Pas du tout. Je lutte beaucoup pour que l'animal, enfin, pour que l'homme reconnaisse qu'il n'est pas au centre de l'univers. Et je prends toujours. Le soin de faire l'historique, hein, on s'est apporté la Méditerranée, le centre du monde, puis la Terre, le centre du monde, puis le système solaire, et puis il n'y a pas de fait. Pour l'homme, c'est pareil. Il n'est pas. Je lutte beaucoup, moi, contre l'anthropocentrisme. Mais vouloir faire que la nature entière vive. Sans se bouffer les uns les autres.
Moi, je vois pas comment.
Je crois que c'est impossible. Quoi.
Comment l'écosystème peut exister sans prédation? Non, mais expliquez-moi. Moi, je veux bien, hein, mais je vois pas comment. Or, on sait que les animaux ne tuent que ce dont ils ont besoin pour survivre, en plus. Hein. Et ça, c'est vrai. Donc, c'est pas du tout comme l'homme. Enfin, l'homme est un sale animal. Mais, je sais pas. Expliquez-moi comment. Comment l'écosystème peut exister sans la prédation. Ça, je demande à comprendre.
On va dire que c'est une hypothèse de travail. C'est pas forcément un objectif bien précis. C'est, on suppose qu'il est possible de ne manger que des végétaux. Donc ça signifie que l'homme, en sachant qu'il puisse se nourrir de fruits, ou de feuilles ou de graines pour ceux qui le veulent, il y a moyen d'offrir des alternatives par rapport au mode de pensée habituel classique qui est on doit manger de la viande ou des dérivés animaux pour être en bonne santé, ce qui est faux.
Ah non, non, mais
il y a des études qui démontrent que
je ne sais pas. D'accord.
On essaie de faire les tours de parole. On fait un peu les tours de parole, chacun lève le doigt. Je crois que c'est le but, c'est ça.
La question qui se posait, c'était par rapport à une charte et une question de droits fondamentaux. De toute façon, on pourra difficilement, mais je ne vais pas vous dire quels moyens on a d'empêcher un lion d'attaquer une gazelle aujourd'hui. Je ne sais pas, je ne les connais pas. À la limite, on peut se poser la question de est-ce que c'est souhaitable de le faire ou pas. La seule truc qu'on se posait, il me semble, c'est sur une espèce de charte. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qui nous paraît moral ou qu'est-ce qui ne nous paraît pas moral? Et en soi, ça me paraît pas moral qu'un être sensible prenne la vie d'un autre pour le souffler.
Ça, c'est l'anthropocentrisme. Parce que vous pouvez.
Étudier
l'évolution. L'évolution du monde.
D'accord.
Elle est basée sur la
ouais.
Toute l'évolution des êtres
humains. Je vais finir. Pour moi, l'évolution du monde, c'est pas une base morale. Je sais pas si c'est de l'anthropocentrisme, je m'en fous à la limite d'en faire. L'anthropocentrisme, c'est pas exactement mon problème. Le problème, c'est une question d'éthique. C'est-à-dire, me disait que. Alors, le faire, bon, je ne sais pas si c'est de l'anthropocentrisme du point de vue de la gazelle non plus d'ailleurs, et si elle s'en fout à la rigueur que je fasse de l'anthropocentrisme, peut-être que j'en fais, mais la gazelle elle serait peut-être a priori plus heureuse de ne pas se faire bouffer que de se faire bouffer par le lion.
Tu fais de la gazélocentrisme.
Peut-être que je fais de la gazélocentrisme. Non, mais mon but, c'est pas du tout de ridiculiser le truc. C'est juste, si on pose une valeur comme ça, de dire, de notre point de vue, il n'est pas moral d'enlever la vie d'un autre pour le bouffer, pour se nourrir, alors qu'il est possible de faire autrement. Après, est-ce qu'on est d'accord sur cette question-là, c'est la question qu'on pose, et après on peut débattre de est-ce qu'il est moral de si on a les moyens d'empêcher le lion, machin. Donc déjà on pose un principe de base qui change déjà beaucoup de choses. Et après, il y a des moyens, il y a des façons d'interpréter qui seront différentes entre nous, mais moi ça me paraît déjà un principe de base, quoi.
Oui, mais.
Ouais, Le tour de parole,
c'est. Ben, je vais prendre un papier et un crayon alors.
Voilà.
Quand c'est nécessaire et qu'il y a plusieurs personnes qui veulent parler, on peut faire clair. Donc je sais pas pour le moment, moi j'ai vu.
Yves,
Anne, je crois.
Anne.
David.
Non.
Moi alors. Bah, il y a quelques personnes.
Le principe, Sébastien, c'est que tout le monde a l'occasion de parler. On lève la main quand on veut le faire, et qu'il y a une personne qui se lève pas à ce moment-là qui note.
Non, c'est clair.
Comme ça, tout le monde peut dire c'est clair. Voilà, c'est la beauté de faire un signe à Claire qui se trouve derrière les shampoings.
C'est clair, ça ne pas les
shampoings. C'est pareil, quoi. On lève la main, Claire note ce qu'il a demandé, et puis comme ça, les gens peuvent parler dans l'ordre, ce qui est un peu contraignant et désagréable, parce que ça rompt le dialogue, l'échange qu'on peut avoir, mais en même temps, on a vu par expérience qu'on ne peut pas fonctionner autrement quand on est debout, et sinon, ça empêche certaines personnes de s'exprimer, et ça devient les débats de deux à deux.
Alors, comme alternative au manifeste, c'est les t-shirts BG Pride qui sont à 12 euros ou 14 euros.
Tiens. Ouh. Alors, Claire, tu peux rappeler qui est en attente de parler?
Alors là, c'est Yves.
Encore.
Je vais essayer d'être bref. Et en même temps, c'est un petit peu un sujet vaste. Mais, parce que bon, moi, ce qui m'a semblé comprendre, c'est que cette déclaration du mouvement antispéciste, ça se veut une déclaration pour une éthique non spéciste. Et donc, ça se veut une déclaration un peu fondamentale au niveau éthique. Éthique sur ce qu'il est juste ou non de faire, sur ce qu'il est souhaitable ou non de faire en termes moraux. Et c'est quelque chose qui va analyser les choses, des événements en termes moraux et indépendamment éventuellement de leur réalisation. Par exemple, on parlait de la Charte des droits de l'homme. La Charte des droits de l'homme, elle dit qu'il ne faut pas tuer d'autres humains, que si on extrapole, il ne faut pas faire des guerres, etc., etc. Il faut respecter la liberté des autres humains. Et c'est une affirmation générale qui a été formulée indépendamment de savoir si c'était possible ou pas. Ça a été formulé comme une sorte d'idéal souhaitable et sans partir de l'idée, par exemple, que il y a toujours eu des guerres, il y a toujours eu des viols, il y a toujours eu des meurtres. Donc on ne va pas faire une déclaration des droits fondamentaux de l'être humain. Non, on a fait cette déclaration-là parce qu'on a jugé qu'elle était juste, qu'elle était défendable à un niveau moral, théorique, argumentatif, etc. Et ensuite, on cherche à l'appliquer avec toutes les problèmes que ça peut poser. Et toutes les non-applications d'ailleurs qui existent. Et il me semble que l'optique du mouvement antispéciste, c'est de poser une déclaration qui soit un peu du même style, c'est-à-dire une déclaration à un niveau éthique. Et par exemple, je ne sais pas exactement ce qu'ils disent par rapport à la prédation, mais en tout cas, ce n'est pas nécessairement en soi un problème, il me semble, s'ils ont une déclaration qui va juger que la prédation, c'est pas une bonne chose, parce que c'est pas parce qu'on peut pas intervenir, ça empêche pas d'avoir un avis sur les choses. Un peu de la même façon, quand il y a eu l'éruption du Vésuve qui est enseveli Pompéi, c'est pas parce qu'on a aucun moyen d'action là-dessus, d'une part parce que c'est passé, d'autre part parce que de toute façon on ne pourrait pas intervenir, qu'on n'a pas l'idée que c'est une catastrophe, que ça a été une catastrophe. Donc il me semble que les choses sont à séparer. Il n'y a pas nécessairement à limiter ce qu'on peut penser du monde en termes de jugement à ce qui est changeable ou pas changeable. Par ailleurs, il me semble qu'il y a une autre question de fond qui est posée par ça, c'est qu'on vit dans une civilisation donc, qui est effectivement humano-centrée, anthropocentrée, mais aussi qui est une civilisation qui a un très très fort sentiment religieux par rapport à ce qu'on appelle la nature, par rapport à l'idée que le monde c'est un ordre, où chaque chose a sa place, et où on considère que la nature c'est un modèle à suivre. Alors, on le considère quand ça nous fait plaisir, quand on y voit un intérêt, on ne le considère pas sinon. Particulièrement pour ce qui est des animaux, on va considérer qu'ils font partie de la nature, c'est des sortes de rouages, de fonctions au sein de cet ordre naturel. On est sur des visions un peu totalitaires du monde à ce niveau-là, et on va se référer à cet ordre naturel à chaque fois comme une sorte de synonyme de ce qui est bien, ce qui est normal, ce qui est harmonieux, ce qui est souhaitable. Alors par exemple, encore une fois, on ne va pas le faire quand ça nous concerne. On ne va pas considérer que la prédation, bah, c'est une bonne chose pour nous. On ne va pas considérer que le viol, alors ça existe énormément, ou que le meurtre sont des bonnes choses. Parce que nous, on s'est abstrait, on se pose comme extérieur à la nature. Mais il me semble que ce n'est pas quelque chose qui tient la route, cette histoire qui aurait d'un côté le monde de l'humanité qui serait sorti de la nature, de l'autre côté le monde de la nature dans lequel les animaux resteraient, et qui aurait deux mondes comme ça à séparer. Et il semble que aussi on n'a aucune raison d'avoir cette sorte de vénération ou de volonté de prendre comme modèle la nature, parce que bon, la nature c'est ce qui est, c'est ce qui existe, et il y a des choses à prendre et à laisser, et de fait c'est ce qu'on fait tous, on prend et on laisse, gérant sa vie par exemple, on utilise des moyens de locomotion, etc., etc. Et il n'y a aucune raison de considérer que ce qu'on fait, c'est valable pour nous, et ça ne pourrait pas être valable pour les autres. Ensuite, pour ce qui est du problème de la prédation, c'est bien évident, je pense que personne ne sait comment, si on considère la prédation que ce n'est pas une bonne chose, mais la prédation, ça pourrait être aussi bien les famines, ou les maladies, les épidémies, je ne sais pas quoi. Je pense que personne n'a l'idée de solution, mais c'est pas une raison pour penser, par exemple, que les épidémies, eh ben oui, c'est une bonne chose, une chose. Bon, je suis un peu rapide et un peu. J'espère que je m'embrouille pas trop. Mais je voulais aborder ce problème-là. Je pense que notre rapport à la nature, c'est un rapport qui est très problématique. Qui conserve beaucoup de la soumission à Dieu, de la religion chrétienne, et qu'on a un peu polarisé sur la création de Dieu. Quoi.
Bon.
Moi j'ai pas d'idée préconçue, parce qu'il n'y a pas bien longtemps que j'essaie de réfléchir globalement à ça. Je peux juste réagir, puis voir si les différentes choses vont s'organiser dans ma tête. Donc la première idée qui me vient, c'est que depuis tout au début, la première fois que j'ai entendu parler des droits de l'animal, ou bien encore du spécisme, du fait de positionner une espèce parmi les autres, ou encore du spécisme qui repose sur une morale, c'est que je trouve que précisément, par exemple, une éthique, une morale, un discours, une notion de droit, toutes ces choses-là, elles sont spécifiquement humaines. C'est les humains qui les ont inventées, qui les ont formalisées, et c'est des affaires qui ne peuvent que concerner les humains, parce que autrement, c'est comme si les animaux là-dedans n'ont pas leur mot à dire. On peut le regretter, mais c'est quand même, pour moi, ça me paraît une évidence, les animaux n'ont pas du tout de mot à dire. Et que ce n'est pas une raison pour qu'ils subissent tout ce qu'on leur fait subir. Au contraire, pourrait-on dire, c'est parce que si nous, en tant qu'humains, on a une particularité, on a une supériorité incontestable qui est soit la supériorité de la parole, soit la supériorité divine, soit nos moyens de destruction universelle, soit notre technique, on peut prendre ça sous l'angle qu'on veut, positif, négatif, métaphysique ou tout à fait prosaïque. On a de fait une puissance sur la nature dont on est sorti, qu'on peut interpréter comme on veut, mais c'est un fait qui nous donne, qui nous renvoie à nous humains, avec quelque chose qu'on a à nous, c'est-à-dire une responsabilité. Les animaux n'ont pas de responsabilité les uns vis-à-vis des autres, ni vis-à-vis de nous. Et nous, par contre, étant donné la puissance formidable qu'on est arrivé maintenant à dégager, et qu'on ne contrôle d'ailleurs pas du tout, mais enfin bref, sur laquelle on gamberge, et on est installé, je ne sais pas ce qu'on fait, mais étant donné cette puissance-là, tout ce qu'on peut faire, tout ce que ça peut faire, c'est nous renvoyer à nous en tant qu'espèce, à notre responsabilité, et vraiment à quelque chose, non pas de principes qui ont ou n'ont pas d'application, mais au contraire, moi j'aurais tendance à penser que ça nous renvoie à quelque chose qui nous engage absolument à une réflexion qui doit avoir des applications, qui doit pouvoir être partagée et qui doit pouvoir dégager un champ de réflexion avec des applications concrètes. De même que la défense des droits de l'homme, avec toutes les... peut-être les déformations, les perversions éventuelles, j'en sais rien, ou les impuissances. Néanmoins, c'est une notion qui existe, qui maintenant a tendance à ne plus être guère contestée, et qui essaye de faire avancer quelque chose à quoi peuvent s'agripper les gens qui sont pris à la gorge. Et bien de même, pour tous les gens humains qui se sentent une responsabilité vis-à-vis du monde, en gros, de la nature, de la culture, de tout le bordel, et des animaux, par exemple. Eh bien, ce qui, d'ailleurs, les animaux comme étant, l'autre pôle de notre vie, et c'est-à-dire, on peut dire, ce que nous faisons sur eux, un jour, nous le prenons sur nous. On le voit depuis le début de la civilisation technique, et probablement, on peut dire bien avant, ce qu'on fait sur l'animal, de toute façon, parce qu'on a, en tout cas, une assise, une base animale incontestable, et puis, ce qu'on fait sur l'animal, on le fait d'une certaine façon sur nous, puisqu'on appartient à la même, au même ensemble, qui est cette planète, bizarre, mal barré, mais enfin, on est tous dans le même bateau, et donc ce qu'on fait là, ce qu'on fait quelque part, ça va forcément nous revenir dessus. Et ça ne veut pas dire qu'on est une espèce parmi les autres, on n'est pas une espèce parmi les autres, c'est nous, bordel, qui faisons tout ça. Alors moi je ne comprends pas comment on peut dire, on n'a pas plus de droits que les autres espèces, ça me paraît, mais vraiment un point de vue même pas lunaire, ça me paraît. Absolument en dehors de la réalité. On a hélas tous les droits, parce qu'en fait on a tous les pouvoirs. On n'a aucun droit, mais peu importe, on a tous les pouvoirs. Et c'est cette réalité-là, moi, que j'ai envie de considérer, et non pas d'affirmer des positions théoriques qui peut-être sont valables, peut-être ne le sont pas, même si elles servent à rien. Enfin, moi, c'est un point de vue qui m'est bien étranger.
Moi, c'était sur d'un point de vue un peu stratégique, en fait, sur la rédaction de manifestes en général. Moi, j'ai tendance à signer des textes ou des pétitions. Si je regarde virgule après virgule, je vais trouver 1000 critiques à y faire. Et qu'au bout du compte, si je suis dans une optique philosophie continentale, enfin, je sais pas si c'est le bon terme, mais bon, si je veux absolument être pur dans ma signature, et que je veux pas porter ma signature à un texte avec lequel je suis pas 100% d'accord, je signerai pas grand chose. Et que le concept de manifeste, en général, je vois plus comme un niveau stratégique que vraiment un texte avec lequel je partage 100% des points, quoi. Par exemple, les droits de l'homme, je pense que j'aurais tendance, si on me posait la question, à signer pour, quoi. Même bien qu'il y aura des références à la dignité humaine avec laquelle je ne vais pas être d'accord. Parce que je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais bon, même je veux dire, le spécisme en soi, la notion d'espèce en soi, ça pour moi, enfin, si je creuse et que je veux faire de la philosophie machin, peut-être que je vais trouver que l'espèce, c'est un truc qui n'existe pas. Enfin, justement, c'est un concept, et que penser, utiliser des concepts, ça aide à penser le monde, mais si ça nous construit à le voir d'une façon, ça nous oriente à le voir d'une certaine façon, qui peut être une mauvaise façon au bout du compte. Et peut-être que voir le monde, enfin les individus qui sont sur le monde, même individus, on pourrait discuter, mais de voir les individus sur le monde et les partager en espèces, c'est une classification qu'on a fait, mais qui est peut-être pas forcément pertinente pour évoluer vers, pour dépasser. Enfin, c'est un concept qui nous aide à voir le monde à un moment donné, et que si je me mets à réfléchir et que je veux vraiment être 100% d'accord avec un truc, je pense que c'est peut-être que ça vaut pas le coup de parler d'espèces à un moment donné. Donc, c'est, dans 10 000 ans, peut-être que de parler d'espèces, ça va être quelque chose qui va être contre-productif, on ne sait rien. Mais j'ai l'impression de, moi, quand je vois un manifeste, j'ai plus envie de réagir à ce qu'il veut dire aujourd'hui, et ce qu'il peut faire avancer aujourd'hui comme chose au niveau stratégique, quoi, dans les conséquences qu'il peut avoir. Alors, le Charte des droits de l'homme, je pense que ça peut avoir des conséquences très positives et que je vais la signer. Et que cette déclaration du manifeste, là, où on a l'impression que tout le monde est contre, je veux dire, si ce manifeste-là, il était quelque chose que partageait la société comme une valeur normale, quoi, un peu comme les droits de l'homme, qui était quelque chose d'assez communément partagé et vu, je trouve que ça serait, le monde serait quand même beaucoup plus joli qu'il l'est aujourd'hui. Donc peut-être que ce manifeste, si on nous proposait un vote, je le signerais assez facile, quoi. Comme je peux voter d'autres trucs, ou voter pour un parti politique, alors que je vais me, c'est vrai que si je regarde un programme d'un parti politique ou d'un mouvement ou d'une personne, je vais me sentir à milieu de ce truc-là. Mais dans l'état actuel des choses, j'ai des choix à faire et enfin un peu une position pragmatique à avoir, quoi. Ce qui est dérangeant, c'est que ce manifeste-là, il se pose comme quelque chose d'universel et comme quelque chose qui veut rassembler la communauté. Alors c'est un peu, je le signerai pas avec avec un trait très large, quoi. Je le signerai avec toutes les...
Avec un crayon de papier.
Voilà, avec un crayon de papier, oui, effectivement, avec un crayon de papier pour pouvoir effacer et signer un autre texte un peu plus tard, quoi, que je trouverais meilleur que celui-là et que je substituerais à celui-là quand les mentalités auront évolué et que moi-même j'aurais réfléchi un peu plus aussi, d'ailleurs. Et enfin, parce que j'aime bien, enfin, je trouve que souvent la notion de manifeste, il y a celui-là qui se veut un peu universaliste, mais il y a un manifeste autour du foie gras qui est un manifeste, une campagne sectorielle pour l'interdiction du gavage, enfin, de la production de l'alimentation forcée des animaux. Il y a un manifeste contre l'élevage intensif des poulets et de chair. Je suis sûr que si c'est un des textes auxquels j'ai participé à l'élaboration de ces textes, si je les relis ligne par ligne, mot par mot, je suis sûr que je vais trouver plein de choses qui vont me dire que... Enfin, si je veux dire, si on m'interpelle sur des phrases qu'il y a dans ce manifeste, à un moment donné, je vais dire, ah oui, effectivement, c'était maladroit de le dire comme ça, et t'as raison, c'est pas... Mais je pense que c'est des manifestes qui, à un moment donné, sont des grands traits, quoi. Je veux dire, les gens qui participent et qui signent à ces manifestes, ils signifient quelque chose. Et quand ça va être repris dans la société, dans les médias, dans un débat, on ne retient pas forcément les petits détails, les petites choses, et qu'on retient un peu une orientation d'un texte, quoi. Et ce manifeste-là, l'orientation globale, c'est que on fait des choses avec les animaux qui sont assez intolérables, qu'on devrait considérer autrement, qu'on reconnaît leur sensibilité, qu'on devrait la reconnaître plus fortement, etc., etc. Et moi, je retiens plus ça de ce texte, quoi. Alors que, effectivement, il y a plein de points, notamment le naturalisme, enfin des choses sur le droit à la vie, enfin des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord en plus, que moi, je me sentirais plutôt d'un bord ou d'un autre, quoi. Mais voilà, je pense qu'il faut peut-être aussi penser à un niveau stratégique. Le manifeste, c'est un texte, c'est pas une analyse philosophique précise. Voilà, c'est quelque chose qui tient en deux pages, quoi. Quelque chose qui se réduit à deux pages, c'est forcément très réducteur du monde, comment on le pense, comment on aurait pensé, comment on aurait qu'il évolue. Même de voir, on voit par exemple avec Anne, je pense que le terme de droit la dérange beaucoup, moi ça me dérange beaucoup moins, quoi. J'ai du mal à voir entre devoir et droit quelle est la différence. Je peux parler des droits des enfants, des droits des handicapés, des droits de la personne. Je pense que au niveau des conséquences, est-ce qu'on est. Si vous éloignez que ça, je ne sais pas, c'est des concepts. Moi, ça ne me dérangerait pas de signer un texte avec, qui parle de droit. Voilà, je ne sais pas. Enfin, c'était une réflexion un peu plus sur le truc de manifeste. On avait l'impression, là, dans les interventions, que tout le monde était contre un peu ce manifeste.
Et
et que c'était un truc un peu horrible. Pas horrible, mais c'est l'entité qu'elle met en valeur.
Enfin, moi, je dis pas que c'est quelque chose d'horrible, c'est vrai que bon, j'ai des trucs de critique. C'est clair aussi que s'il y avait un référendum et qu'il était possible que ce texte soit adopté dans la loi, moi je vote pour, enfin, à 100%, enfin, sans hésitation. S'il y a un référendum, le résultat sera l'abolition de la viande, je vais pas me poser la question de. Mais la critique pour moi, elle est presque dans le titre du manifeste. C'est-à-dire pour moi, c'est une critique aussi à un niveau stratégique. C'est pas simplement une question de dire je veux pas me salir les doigts avec en signant un truc comme ça. C'est le fait que ce texte n'est pas à peu de probabilité d'être adopté demain matin comme d'en rentrer dans la loi. À quoi il sert ce texte? Et mon problème, c'est presque avec le titre du texte, il s'appelle Movimento Specista, c'est-à-dire que, à la limite, il a la prétention. Alors, moi, je suis très sensible à cette question, mais bon, moi, j'aime pas qu'on dise, voici, moi, je suis le mouvement antispéciste. J'aime pas qu'on dise de la même façon qu'à une époque il y avait un mouvement féministe, il y avait un mouvement de libération de la femme. Un jour, il y a une petite association qui a déposé, comme on dépose un brevet, qui a déposé la marque déposée mouvement de libération de la femme. Ça a fait un tollé. Les gens, ils ont dit, mais c'est des folles, enfin, de considérer qu'elles ont le droit de mettre leur marque déposée sur mouvement de libération de la femme, quoi. De la même façon, moi ça me choque que ce manifeste s'appelle mouvement antispéciste. Pour moi, c'est un point de vue de personnes qui se réclament de l'antispécisme et qui ont le droit de se réclamer de l'antispécisme. Je pense que je ne vais pas leur nier le fait qu'ils soient antispécistes, enfin qu'ils ont une certaine. Qu'ils ont ce droit. Mais le problème, c'est une volonté de dire voici ce qu'est l'antispécisme. Parce que la conséquence de ça, à mon avis, c'est la stérilisation. La conséquence de ce manifeste, c'est pas que demain matin, il va y avoir une loi interdisant la viande. Par contre, la conséquence de ce genre de manifeste et de ce genre de projet, même si je trouve qu'il y a beaucoup de choses sympathiques là-dedans, eh ben, une des conséquences risque d'être la stérilisation des débats et le fait de dire, voilà, ce que c'est que l'antispécisme. Si vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec ceci ou cela, vous n'êtes pas antispéciste, vous avez... faites pas partie du mouvement, ou si vous dites que vous êtes que vous contestez le fait que les droits découlent des droits à la vie de tout être vivant ou des choses comme ça, vous ne faites pas partie du mouvement, vous êtes out. Je trouve que là il y a quelque chose et qu'il y a une tendance dans le mouvement à vouloir schématiser la pensée, alors que moi dans le fond, ce que je pense dans le fond, c'est que la lutte pour arriver à une société non spéciste, on a au moins 500 ans devant nous, au bas mot, si je suis optimiste. J'espère que dans 500 ans, mais je suis pas sûr d'y croire. Je suis pas sûr même de croire qu'un jour on arrivera à être à une société non spéciste, je l'espère. Mais en tout cas, je pense qu'on a vraiment un long chemin devant nous et qu'au cours de ce long chemin, il faudra faire beaucoup de réflexions et que cet ensemble de réflexions, c'est des choses qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui. Quand on demande aujourd'hui comment imaginer un écosystème sans prédation, eh ben, moi, je peux l'imaginer aujourd'hui, mais je veux dire, c'est de la science-fiction si je décris l'écosystème. Je peux reprendre la Bible qui dit que le loup couchera à côté de l'agneau. Bon, ben d'accord, mais on dira c'est juste un truc. Et tous les poissons de la mer, les gros poissons qui mangent les petits. Bon, et même à un certain niveau, est-ce que c'est important que les mésanges ne mangent plus, ou enfin pas les mésanges, mais les martinets ne mangent plus d'insectes. Il y a tellement de problèmes. Moi, je suis incapable de dire ce que c'est à un niveau pratique, je suis incapable de dire ce que c'est à un niveau théorique, mais il n'empêche que j'ai envie de dire qu'il y a un problème là. J'ai envie aussi de dire qu'il est parfaitement légitime de dire que c'est pas parce que l'écosystème n'est pas une valeur en soi. J'ai pas envie d'accepter l'idée que l'écosystème, que les équilibres naturels soient une valeur en soi. Ça me paraît être ça me paraît même pas être justifié à un niveau biologique. Je veux dire que l'idée d'équilibre biologique, d'équilibre écologique, Il y a des travaux qui sont sortis il y a quelques années qui ont montré, enfin, montré à juste titre à mon avis, que la notion même d'équilibre écologique, c'est quelque chose qui a été inventé et qu'il n'y a pas d'équilibre écologique, que ça n'a pas de sens. J'ai pas envie d'accepter le discours qui dit c'est parce que ça fait 2 milliards d'années que la vie évolue avec la prédation, que la prédation c'est quelque chose de... Je veux dire que ça fait 2 milliards... Oui, ça fait 2 milliards d'années que la vie évolue avec la violence, avec le fait de ne pas respecter les uns les autres. Mais j'ai pas envie de dire que c'est pour ça que ça serait justifié. J'ai envie de dire que... Ben oui, moi, si j'ai un chat, je vais lui interdire de manger les souris. Si j'ai le problème, si j'ai la possibilité de choisir, est-ce que je réintroduis le loup dans le Jura ou je ne le réintroduis pas, moi je dis non, il n'y a pas besoin de réintroduire. Ça, le système, il fonctionne déjà très bien comme ça, il y a des animaux qui sont heureux, je ne vois pas pourquoi on irait réintroduire le loup. Je veux dire, c'est quelque chose qui existe, je veux dire, ce sont des débats, j'ai envie de dire que j'accepte, je respecte les opinions des personnes qui ont un point de vue beaucoup plus biocentrique, un point de vue beaucoup plus écologique et naturaliste, comme vous. Je veux dire, j'ai envie de considérer que vous faites partie d'une certaine façon du même mouvement que moi, mais j'ai envie de pouvoir dire mon opinion là-dessus. Et je pense qu'il y a des gens qui là-dedans, qui font partie du truc. Alors, dire voici ce que c'est le but du mouvement pour les droits des animaux. Il y a des gens qui disent ça, par exemple aux États-Unis, il y a une forte tendance à dire ça. Il y a Gary Francione, par exemple, qui dit le mouvement pour les droits des animaux a pour objectif que les animaux ne soient plus une propriété. C'est clair, je veux dire, c'est un critère clair. Le jour où les animaux ne pourront plus être la propriété humaine, son objectif sera rempli. Je pense que c'est un objectif qui peut se formuler en termes relativement clairs, mais que je ne suis pas d'accord que pour moi c'est l'alpha et l'oméga de la lutte. Moi, je n'ai pas que le problème de savoir si... pour moi c'est un problème aussi que les chats puissent chasser les souris. Pour moi c'est un problème aussi j'ai pas envie de séparer l'histoire de la lutte pour les droits des animaux forcément des questions humaines. Il y a pas mal de questions humaines, la libération humaine, il y a encore beaucoup de choses à faire du côté de la libération humaine et qui sont pas forcément sans rapport avec la libération des animaux. Les animaux, les humains sont des animaux aussi, et que pour moi les deux à un certain niveau sont pas assez pareils. Donc, et que ce que je reproche à ce genre de déclaration, c'est de penser qu'on puisse aujourd'hui, peut-être dans 3000 ans, on pourra faire un énoncé des principes précis. Aujourd'hui, je ne pense pas aujourd'hui, je pense qu'il faut encourager la diversité dans le mouvement, la diversité dans la pensée du mouvement, le dialogue, la clarification des points d'accord et d'opposition à l'intérieur du mouvement, la clarification et l'approfondissement des différentes positions, mais pas du tout penser que ce genre de texte puisse être quelque chose qui mette tout le monde d'accord et qui mettent tout le monde d'accord un petit peu de force, de manière autoritaire. Je ne dis pas qu'eux, ils ont une manière autoritaire, je n'en sais rien, et j'ai l'impression que c'est des gens qui me sont sympathiques. Mais j'ai le sentiment que la tendance, l'aboutissement de ça, ça serait quelque chose d'assez autoritaire et que j'ai pas envie enfin, que je n'approuve pas cette démarche. Voilà.
Luc ? Ouais. Non, excuse-moi, il y avait Antoine avant.
Le mot de la fin sur ce que je pense de l'approche politique manifeste au sein du mouvement. Juste avant, par rapport à l'organisation des débats, il y avait eu quelques discussions à la suite de l'année dernière, en particulier avec Claire, de deux personnes qui trouvaient que le débat était très long. Et ça, c'est parce que parfois, il y a plusieurs heures jusqu'à des heures indues où le dîner devait être digéré. Donc, du coup, ça ne convient pas à tout le monde. Bon, ça convient bien, mais ça convient pas à tout le monde, ce qui est tout à fait normal, et que du coup, ça avait même se gêner de sortir en cours de route. Ou, voilà. Bon, tout ça pour dire qu'on avait une idée, en préparant cette année, de faire des pauses, une pause au moins, en tout cas, d'un certain moment de débat, pour permettre à ceux qui déjà de se sortir un peu, prendre l'air 5 minutes, puis de redémarrer après, et puis à ceux qui veulent aller faire autre chose, ou qui pensent avoir réfléchi sur la notion, surtout ailleurs. C'est clair, on peut proposer de juger du moment approprié pour faire la paix, parce que je dois mettre en fait le problème.
C'est le premier dans les familles.
Hein, pour le proposer. Voilà, c'est clair. Et puis, d'autre part, Yves avait aussi fait remarquer que c'est pas évident pour tout le monde de parler, surtout cette année, on est encore quelques personnes de plus que l'année dernière, c'est sympathique.
On est 40, je crois.
On vient de 40 là, hein, c'est ça, oui, ce qui est bien. Mais bah, ça pose le problème que déjà, on voit, c'est pas très facile d'avoir un dialogue, faire des tours de parole. Et puis ça permet pas à tout le monde de s'exprimer facilement, c'est pas possible, donc on se démarche comme ça. Et donc, Yves, tu peux dire en deux mots ce que tu avais pensé.
Mais je me disais qu'un truc qui pouvait être pas mal, c'était donc il y a une présentation et ensuite il y a un débat en grand groupe, mais là, si on fait une pause ensuite, qu'on peut reprendre en plus petits groupes.
Oui.
Par exemple des groupes de 5 à 10 personnes, ça permet beaucoup plus à tout le monde de s'exprimer et le dialogue aussi va prendre une autre forme qui sera plus tranquille, moins. Sachant aussi que c'est possible qu'il reste un grand groupe et puis qu'il y ait un ou deux petits groupes. C'est une solution assez souple, mais que du coup, il me semblait que ça pouvait permettre que les deux systèmes existent. Dans un premier temps, une réunion en grand groupe, ensuite une pause, et ensuite éventuellement, s'il y en a qui le souhaitent, donc faire constituer des groupes plus petits qui vont aller discuter un peu dans leur coin, mais d'une façon qui sera
bonne. Ça teste tout ça, après, je veux dire, chaque groupe va parler sans doute de sujets différents.
Ça va être
et en mettre en commun.
Et bien,
les retranscriptions de maintenant.
On s'est dit que c'était difficile à faire en pratique. Donc on
et même le matin, une retranscription de 5 minutes de chaque groupe le matin.
C'était une bonne idée, mais vraiment en pratique, un peu difficile à faire, un exercice un peu formel.
Ça se fait.
Ça n'empêche pas de le tenter.
On peut le tenter.
Peut-être l'utilité des discussions par petit groupe suffisait déjà. On en sait tout le temps, chacun un groupe. Est-ce que si ça va faire, on peut se proposer au moment où tu sens qu'il serait bon de faire un petit coup d'aller prendre l'air.
C'est subjectif.
On avait plus 2 heures de débat au départ. La proposition d'hier, c'était au bout de 2 heures de débat. C'était pas mal comme proposition, non? C'était pas ça qu'on avait dit hier soir. On a fait au bar.
Est-ce qu'on vient à 6h30?
Franchement, les 2 heures, c'est la fin.
Je disais 2 heures, c'est logiquement le temps d'un débat. Enfin,
ouais,
on aura fait des débats de 5-6 heures. Mais...
Non, mais après, il faut y avoir.
Peut-être on peut dire vers 6h30, on fait une pause.
Je ne suis pas l'heure qu'il est.
On continue les discussions.
On fait une pause maintenant et puis on reprend après. Ou alors on finit le tour, en fait, en tout cas, des gens qui ont levé la main, histoire qu'ils se rappellent de ce qu'ils voulaient dire.
Elle
a
levé la main.
On propose maintenant, puis après on.
Ah, et on propose peut-être.
On
se propose sur la composition des petits groupes, parce que c'est pas si évident que ça. Voilà.
Mais peut-être
est-ce qu'on fait un groupe fumeur dehors, un groupe alcoolique au bar.
Anne proposait de faire par exemple sur des thèmes.
Pas forcément aujourd'hui, mais par exemple demain après-midi.
Bah là, on a un quart d'heure, vous, on a un peu plus de temps, on peut le faire en un quart d'heure.
En un quart d'heure, on pourrait choisir quelques thèmes, et puis comme ça, demain, on propose voilà les thèmes, les lieux qu'on peut se répartir. Maintenant, on va pas mettre à tout un petit groupe maintenant, je pense que
c'est ça.
Non, mais là, du coup, qu'est-ce qu'on fait
sur ce qu'on a évoqué? Est-ce que pour poursuivre le débat, c'est qu'on a tiré jusqu'à 6h30? À 6h30, ceux qui veulent quitter la salle, faire autre chose, soit à l'aise, sachant qu'ils peuvent aussi quitter en cours de route, donc c'est un petit peu plus. Et puis, jusqu'à 6h30, on peut faire des petits groupes à ce moment-là, on décidera de la manière de faire. Donc on va essayer de rester loin.
Oui,
c'est pas mieux de se quitter en sachant où on va. Si je peux me permettre. C'est pas mieux d'arrêter le débat en sachant où on va pour qu'il y ait des chances qu'ils reprennent, plutôt que de se dire alors à 6h30 on se retrouve, puis finalement on se retrouve à 7h et puis il y aura plus de 10 personnes.
désigne une discrimination arbitraire qui est fondée sur l'appartenance d'espèces et d'individus. C'est une notion qui a commencé à être utilisée dans les années 70, vers 75, et qui a été popularisée par un philosophe qui est australien, enfin bon, qui s'appelle Singer, mais bon, ensuite ça a été repris par plein d'autres gens, qui travaillait sur la notion d'égalité humaine. C'était à l'époque des mouvements de libération des femmes, mouvements de libération des Noirs, etc. aux États-Unis, il y avait des luttes fortes, et lui était étudiant en philosophie morale. Et il s'était dit qu'il allait travailler sur cette notion d'égalité, voir qu'est-ce qui la fondait, dans quelle mesure elle était défendable et à quelles conditions elle était défendable. Et donc il a commencé à travailler là-dessus, et il avait un ami qui était végétarien qui lui a demandé, mais on parle toujours d'égalité humaine, pourquoi l'égalité, elle serait restrictive aux seuls humains, pourquoi elle ne s'étendrait pas aux autres animaux? Et lui a pris cette question au sérieux. Et il s'est posé la question de quels étaient les arguments, effectivement, qui faisaient qu'on parlait d'égalité humaine et d'égalité strictement humaine. Pourquoi cette notion incluait pas les animaux? Et au bout d'un bon bout de temps de boulot, il a abouti à la conclusion que, effectivement, cette notion d'égalité humaine, en tant que strictement humaine, n'était pas défendable rationnellement, n'était pas défendable au niveau argumentatif, et que les arguments qu'on utilisait pour défendre ce caractère typiquement humain, donc ne tenait pas la route. Alors, pour faire vite, hein, mais les arguments qu'il a réfuté bien fondé, c'est d'abord l'argument d'espèce, tout bêtement, c'est-à-dire bah, simplement, les animaux ne font pas partie de notre groupe biologique, ils ne font pas partie de notre espèce, donc on n'est pas tenu de tenir compte de leurs intérêts. Lui, ce qu'il dit, c'est que en fait, c'est un argument qui repose sur rien, au même titre que d'ailleurs l'argument de race ou de sexe, hein, et qui sont strictement substituables les uns aux autres, et que si on se met à accepter la frontière d'espèce comme étant une frontière moralement pertinente, alors il n'y a plus de raison de considérer la frontière de race ou la frontière de sexe ne seraient pas des frontières pertinentes. Et de toute façon, on ne voit pas le lien logique qu'entretiendrait l'appartenance à un groupe biologique avec la façon dont on doit considérer les individus. Alors il y avait ça. Et les autres arguments qui sont utilisés pour défendre cette notion d'égalité humaine exclusive, c'est des arguments qui ne sont pas directement liés à l'espèce, mais qui la rejoignent vite. C'est dire les humains sont plus intelligents, sont raisonnables, sont libres, ont une conscience de soi. Et les animaux n'en ont pas. Et c'est parce que les humains sont libres, intelligents, raisonnables, ont une conscience d'eux-mêmes, qu'ils ont une dignité spécifique et que du coup ils ont des droits fondamentaux et qu'on doit peser sur une même balance leurs intérêts, quels qu'ils soient, quel que soit leur âge, quel que soit leur sexe, quelle que soit leur race, etc. Donc la notion d'égalité, elle naîtrait de notre intelligence, ou de notre caractère raisonnable, ou de notre caractère libre, qui est dénié aux animaux. Et ce que fait remarquer Singer sur ces arguments-là, c'est que, d'abord, ce sont tous des arguments extrêmement flous. La liberté ou l'intelligence ou le caractère raisonnable sont des trucs qui sont extrêmement difficiles à caractériser. Ensuite, que ce sont des arguments dont il est quasiment arbitraire de dire que les humains sont libres, intelligents, raisonnables et que les animaux ne le sont pas. Dans la réalité, il y a tout un continuum. Ensuite, l'argument. Il y a des petits sous-arguments hein, qui sont aussi le fait que, heureusement, on n'utilise pas ces arguments-là pour discriminer au sein de l'espèce humaine. Parce que, de fait, il y a plein d'humains qui sont clairement moins raisonnables que certains animaux. Quoi. Ça peut être des nourrissons, par exemple. Heureusement, on ne va pas prendre ces critères au sérieux à ce moment-là et on ne va pas se mettre à engraisser des nourrissons pour les faire brocher, pour les faire rôtir à la broche ou un truc comme ça. Mais surtout, l'argument fondamental, c'est de se dire, mais quel lien logique il y a entre l'intelligence d'un individu ou sa liberté et la façon dont on doit le traiter? En quoi le fait qu'un individu soit plus ou moins intelligent, ça devrait conditionner le poids qu'on accorde à ses intérêts? Avec des exemples tout cons, mais de dire, est-ce que le fait de fouetter Einstein, c'est pire d'un point de vue moral que le fait de fouetter l'idiot du village, par exemple? C'est vraiment caricatural, mais c'est le type de raisonnement. Et la conclusion de Singer, c'était de dire, non, effectivement, ce sont des arguments qui ne tiennent pas, ça n'a pas de lien logique. On ne voit pas quel lien logique entretiendrait la question, par exemple, qui est raisonnable avec
l'importance morale qui est accordée à la souffrance ou au plaisir d'un être. Et donc la conclusion de Singer, c'était que la notion d'égalité humaine, elle n'était pas défendable en tant que restrictive, exclusive, et que par contre elle était défendable, mais en tant que partie prenante d'un truc plus vaste, qui est l'égalité de l'ensemble des êtres sensibles. Et son raisonnement, c'est que à partir du moment où un être est sensible, qu'il peut éprouver des sensations de plaisir, de déplaisir, de bien-être, de mal-être, cet être, il va être affecté par les événements, sa vie peut se passer bien ou mal, c'est-à-dire que ça a un sens de dire que sa vie peut se passer bien ou mal, ça a un sens de dire qu'il a des préférences, et ça a un sens de, du coup, de dire qu'il a des intérêts à défendre, qu'on peut du coup déterminer. Et il dit, et il n'y a aucun critère qui ne soit pas arbitraire pour considérer que les intérêts d'un être sont moins importants que ceux d'un autre. Et sa conclusion, c'est ce qu'il a intitulé « L'égalité animale ». C'est dire, mais en fait, enfin, au moins au niveau de la souffrance, il n'y a aucune raison de considérer que la souffrance d'un rat, par exemple, est moins importante qu'une souffrance similaire d'un humain. Ou que la souffrance d'une poule en batterie est moins importante, d'un point de vue moral, d'un point de vue éthique, que celle d'un humain qui serait maintenu, par exemple, dans les mêmes conditions. Et la notion de spécisme naît de cette notion d'égalité. C'est que du coup, le spécisme, c'est une discrimination arbitraire, c'est-à-dire qui est indéfendable, et pour les mêmes raisons en fait que la discrimination raciste, par exemple, est indéfendable, ou la discrimination sexiste, etc. Et donc, autour de cette notion, qui est finalement une notion politique de spécisme, s'est construit un mouvement qui existe un peu partout dans le monde, qui est le mouvement antispéciste, ou qu'on appelle le mouvement pour l'égalité animale, ou mouvement pour la libération animale, qui est un mouvement qui met l'accent sur l'existence individuelle des animaux, et sur leurs intérêts individuels, et sur le fait qu'il faut prendre en compte ces intérêts individuels au même titre que les nôtres propres. De la même façon que le mouvement pour l'égalité humaine dit... Les humains ont des intérêts à défendre, il faut qu'on prenne ces intérêts en compte au même titre que les autres propres. Voilà, c'est pour clarifier un peu cette notion de spécisme et les enjeux qu'il y a autour de cette notion-là. Quoi.
Comme ça.
Bien,
hein.
Bien, c'était très bien.
Wow.
Donc là, c'était à Anne.
Oh, je suis vraiment... Parce qu'il y a des choses qui me viennent dans la tête, mais après elles sont bonnes, alors pour les rattraper, ça prend du temps. J'ai l'impression que ça me fait une impression pénible d'un mélange de niveaux, de discours, d'ordre de réflexion qui deviennent du coup. Enfin, je sais pas comment dire, je suis un peu paralysée. Il me semble que, par exemple, je vais prendre un truc, on va voir si le reste aussi vous vient. Par exemple, quand tout à l'heure, comment il est parti ?
David ?
David disait, moi j'interdis à mon chat de manger les souris. Partir à partir de là. Bon, ben moi, si je vois mon chat attraper une souris, j'attrape la souris. Et je la remets dehors. Je ne vais pas interdire à mon chat de manger des souris. Parce que, ma foi, je trouve que c'est pas à moi de faire une chose pareille. Enfin, je ne me trouve pas le bon dieu de mon chat, même si je lui donne à manger, ça me demande. Et c'est pas moi qui vais faire la loi sur sa nature de chat. Il y a déjà un espace qui est l'ordre naturel. Moi, je trouve que déjà, il est certes pas tendre, il est un espace de prédation, il est un espace sur lequel nous sommes. Non, ça a couronné le bazar, ça se déroule depuis la nuit des temps. Je ne vois pas très bien comment, même dans 50 000 ans, bien qu'on ait probablement beaucoup, beaucoup transformé tout le Schmidblick, l'ordre naturel, s'il y a encore des chats et des souris, je crois que les voir attablés ensemble et poliment partageant un repas végétarien, ça me paraît plutôt de l'ordre de ce que dans un autre espace de pensée, on a appelé le royaume de Dieu, céleste, le royaume de Dieu. Et moi, j'aime beaucoup cette idée du royaume de Dieu où, effectivement, le lion et l'agneau mangent à la même table.
Mais je pense que c'est le royaume de Dieu, c'est pas la vie sur terre, et que ça le sera jamais. Et que si jamais on essaye de faire, avec des idées comme ça, le royaume de Dieu sur terre, on a déjà essayé de faire des grandes choses autour de l'égalité pour les humains sur terre, et on a vu le prix coûtant. Hein, il n'y a pas si longtemps, dernier exemple, c'était le Cambodge. Enfin, les grandes utopies, les généralités sidérantes, pétrifiantes et dévastatrices au nom des grands principes, tant qu'elles sont des considérations générales sans conséquence, ne sont pas d'inconvénients. Pas d'inconvénients, je n'irai pas jusqu'à les signer, mais bon, ce n'est pas d'inconvénients. Mais à partir du moment où elles commencent à mobiliser des énergies pour se réaliser, en général, elles entraînent, semble-t-il, avec un peu l'histoire du siècle précédent, elles entraînent plus de catastrophes que de bénéfices. Donc moi, le royaume du ciel sur la terre, a priori, j'y crois pas, j'en veux pas, je crois que tout ce qui consiste à télescoper les différentes dimensions, les différents espaces de réalité, et à vouloir faire rentrer les uns dans les autres, au moins même en principe, me paraît déjà un degré de violence conceptuelle, mentale, et qui détruit un peu les possibilités de se déplacer avec, comment dire, d'une façon mesurée et avec la possibilité d'avoir des pensées, je dirais, qui ont des pattes et des oreilles. Moi, j'aime bien qu'on garde des pensées qui ont des pattes et des oreilles, qui sont sur terrain, qui peuvent se déplacer, et puis qui peuvent écouter ce qui existe autour, ce qui a déjà existé, et qui sont donc respectueuses d'une réalité qui est là. Alors, on peut, après, chercher à frayer des chemins là-dedans, parce que cette réalité, elle est cruelle, sans doute, elle est difficile à générer, certainement, mais frayer des chemins... Ça me paraît nécessaire, parce que sinon on désespère, mais l'idée de je crois qu'on est très 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 loin, l'idée d'un manifeste me paraît peut-être une bonne idée, mais on n'a vraiment pas encore du tout suffisamment décanté pour pouvoir contre quelque chose qui tienne un tant soit peu la route et qui puisse être écouté par des points de vue, par des personnes extérieures, sans provoquer une espèce de spasme interloqué de toute façon, parce que c'est important aussi de pouvoir être compris par les autres, par les gens ordinaires qui comprennent un peu de quoi on parle. Si on parle de l'égalité, par exemple, entre un humain abstrait, général, une souris, une araignée et puis mon chat, parfois on peut allonger la liste. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, l'égalité entre ces individus, ça me paraît, excusez-moi, un non-sens qui est, au contraire des non-sens anglais qui sont tellement drôles, me paraît même pas drôle, ça me paraît angoissant. Cette pensée m'angoisse. Cette forme de pensée aura plutôt, pour moi, un effet angoissant. C'est plutôt kafkaïen, je trouve que c'est absolument obscur. Tout est complètement écrabouillé là-dedans. Il n'y a plus de... Il n'y a plus aucune cohérence. Je pense que c'est quelque chose de formel, et c'est ça aussi qui me gêne, qui me paraît ce qui propulse ce genre de machine mentale. C'est un formalisme complètement débridé. Au nom de logique complètement abstraite, on peut mettre en cause les logiques dominantes, certes, on peut tout à fait le faire, mais au nom de protocoles logiques extrêmement, vraiment réduits au minimum et abstraits, on va mettre dans la même boîte, justement, on va enfiler un nègre, un humain comme si, une souris, un animal de laboratoire, et puis quoi? Qu'est-ce qu'on aura avancé quand on dira que ce sont des individus qui ont le même droit? Mais voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, moi, ça me démoralise, je me dis, moi, pourtant, j'ai envie de faire des choses pour que la planète soit plus respirable, pour qu'on respecte la vie dans toutes ses formes, y compris celle qui nous est très différente, y compris celle avec laquelle c'est pas si évident, y compris surtout d'abord celle sur laquelle on a un plein pouvoir effroyable. Moi, j'ai envie vraiment de faire ces choses-là, mais je me retrouve pas du tout dans ces discours.
Ça.
c'est autour de Jacques. Mais, juste, je voulais juste dire un point. Il y a un très bel article d'André Méry dans le dernier. Est-ce que tu peux le montrer dans le. Enfin, pour moi, c'est vraiment un très bel article dans le Nouvel Observateur, hors série, sur les utopies de demain, et un article sur l'utopie végétarienne. Les utopies de demain, et il y a un très bel article sur l'utopie végétarienne, et je pense, Anne, que ça peut répondre en partie à tes questions. Et vraiment, je conseille à toute la lecture. Hein. Il est là.
Ça sera sur la table. C'est sur les utopies d'aujourd'hui.
Alors, je vais rebondir sur ce que vient de dire Céane. Je rebondis sur ce qu'elle dit, parce qu'une utopie qu'on construit sur des idées qui sont qui ne reposent pas sur la réalité et sur les connaissances que nous avons de la nature, eh bien, c'est une utopie qui ne tient pas la route. C'est pour ça que si on ne tient pas compte de tout ce qui a construit, tout ce qui a fait l'homme aujourd'hui, c'est-à-dire tout le système de l'évolution, de la vie sur la Terre depuis 3 milliards d'années, eh bien, on est à côté de la plaque. Les espèces, c'est une construction humaine. Il n'y a pas de différence. Ça va de l'homme à la bactérie, ou plutôt l'inverse, de la bactérie à l'homme. Mais si on ne tient pas compte de ça, si j'ai parlé de la prédation tout à l'heure, c'est parce que la prédation, c'est la base même de l'évolution. Il n'y a pas de possibilité de vivre s'il n'y a pas de prédation. Même la morale n'est pas spécifiquement humaine. La morale est née bien avant l'homme. La morale, c'est un produit de l'évolution, la morale. La réconciliation chez les primates, ou la prohibition de l'inceste chez les primates ou chez les orques du Pacifique, ça existe. L'homme a simplement, par la réflexion, repris ses problèmes de morale. Donc tout est fonction de la manière dont de l'univers le plus simple, de la bactérie la plus simple, on est arrivé jusqu'à l'homme. Et ça, vous pouvez en penser ce que vous voulez, que la nature, que nous avons transformé la nature en une déesse, mais tout est. Si les uns ne mangent pas les autres, il n'y a pas de vie sur la Terre, excusez-moi. Hein. C'est même pas la peine de discuter. Alors, pour reprendre ce que disait je pense que si l'homme est le plus intelligent de la planète, ce n'est pas des droits qu'il a, ce sont des devoirs qu'il a. Et donc, ce que nous devons essayer de construire, c'est une charte qui indique clairement nos devoirs vis-à-vis des animaux. Mais je ne pense pas que nous arriverons à un résultat quelconque si nous voulons faire de la nature entière le reflet de notre morale des droits de l'homme. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est une utopie, et comme les autres utopies, elle disparaîtra d'autant plus vite que notre évolution ne nous mènera probablement pas très loin.
Maintenant, c'était Baptiste.
C'était juste pour. Parce que là, notre point de vue est quand même humain. Et est basé sur ce qu'on appelle une sensibilité, qui est quand même tournée sur nous-mêmes. Donc, enfin, tout à l'heure, Anne parlait de responsabilité, et c'est vrai que c'est. C'est quand même une responsabilité qu'on se transformer nous-mêmes. On dit qu'on, par notre intelligence, on a ce devoir. C'était juste pour dire que c'était quand même notre point de vue d'homme, donc d'animal, mais aussi d'un homme, enfin d'animal qui a évolué, qui fait partie d'un petit rien, qui est devenu ce qu'on est en ce moment. Donc, c'était pour dire quand même rappeler notre point de vue qui n'était pas celui des animaux.
Oui, il ne faut pas faire parler les veaux, quoi. C'est important de s'occuper que les veaux soient plus traités comme ils le sont. C'est essentiel pour notre propre dignité, mais on ne va pas faire comme si c'était eux qui parlaient.
C'est un mensonge, c'est une falsification de la réalité. Ben quand on dit on est égaux, enfin, qu'est-ce que ça veut dire, l'égalité des droits des beaux? Mais pour le beau, il n'a aucun droit, ça ne veut rien dire. Ce sont nos devoirs vis-à-vis de notre propre humanité, qui est de construire un monde qui soit plus aussi effroyable. Ce sont nos devoirs, ce sont nos responsabilités vis-à-vis des êtres que notre puissance domine.
Tout à l'heure, on emploie un mot, c'est sensible. Et j'aurais bien aimé qu'on finisse que c'est un être sensible. Parce que c'est tout ce qui fait, qu'il y a des problèmes, c'est qu'on n'arrive pas encore à savoir qu'est-ce qu'un être sensible. On ne s'est pas mis d'accord au préalable, donc on ne peut pas s'entendre. Pour moi, je ne sais pas, je ne m'étais pas posé la question avant. Et c'est vrai que, par exemple, je suis plus sensible à la cause des veaux, alors que mais je suis moins à la cause des poissons. Simplement parce que les veaux crient plus fort que les poissons. Et donc, à quel niveau on dit qu'il y a une sensibilité? Enfin, je n'ai pas compris ça. Enfin, la fois, c'est un peu, mais... Oui.
Ouais. Moi je pense que je pense qu'un être sensible, c'est un être qui peut ressentir de la douleur, du plaisir, du bien-être et du mal-être. C'est ça. Je pense que c'est un peu clair comme nous.
Tu peux communiquer aux autres.
C'est ça être sensible.
On s'est beaucoup étudié. Il faut quand même qu'on fasse les tours de parole. Excusez-moi, mais j'ai quand même. Tu as fini, Baptiste? Il faut vraiment que. Si vous voulez parler, je vous note, vous me levez la main et je vous note. Baptiste, je te conseille de la brochure poisson qui est fantastique. Ensuite, c'était à Bruno.
J'allais justement parler de ça parce que quand justement Yves définissait l'antispécisme et qu'il disait qu'il s'était basé sur considérer la notion d'intelligence, de liberté comme floue et arbitraire, je pense justement que prendre la sensibilité, c'est la même chose, c'est prendre un autre critère flou et arbitraire qu'on est sans cesse obligé de tout le temps travailler, c'est un déplacement de frontières. Et que je vois pas comment on peut en sortir avec ça. L'antispécisme, c'est embranchementiste. Faire une différence de nature entre l'animal et le végétal, enfin, voilà, c'est un déplacement de frontières, à mon sens. Après aussi, la notion d'égalité, elle a toujours été dangereuse, y compris dans les droits de l'homme. C'est ce qui a permis le libéralisme peu de temps après. On est libre et égaux, après les meilleurs réussiront. Enfin, c'est aussi ça, enfin, le terme d'égalité, qui n'est pas l'égalitarisme. Enfin, c'est un peu différent. Enfin, voilà, j'ai l'impression une fois de ne pas être d'accord ni avec personne, parce que je pense justement pas que. Je pense que la notion de nature aussi est une notion un peu dangereuse. Enfin, on peut parler du vivant, la nature qui serait, dans laquelle l'homme aurait échappé ou l'homme serait supérieur, c'est faux. Si on parle de supériorité, c'est la bactérie qui gagnerait sur plein de critères. Enfin, c'est plus des notions. La planète n'est pas en danger, je pense justement, c'est que l'espèce humaine qui est en danger au pire. À la limite, les vertébrés supérieurs, mais pas beaucoup plus.
C'est elle qui s'est mise en danger, c'est bien fait.
Oui. Enfin, je ne sais pas si c'est bien fait. Et que justement, enfin, le végétarisme dont on pourrait parler, ou que, enfin, sur lequel moi je peux parler, ce serait justement un végétarisme spéciste, qui serait justement basé sur les. L'homme est un animal, comme les autres, il a des spécificités, dont l'une est la possibilité de l'éthique. Et justement, on n'est pas un lion, nous, on est capable de sortir de ça. Et l'éthique, elle n'est pas possible chez le lion, chez la blatte ou chez l'acacia. La sensibilité, elle est possible chez les trois que je viens de citer.
C'est ce qu'on prétend, nous tous. On va pas changer la nature.
Par contre, la prédation n'est pas à la base de l'évolution non plus. Enfin, coopération et prédation, ça va ensemble. Enfin, là aussi, il n'y en a pas un qui serait à la base non plus. C'est très clair.
Et le lien entre le minéral et le végétal, c'est quoi? Après, j'arrête.
Ça, dans 5000 ans, on pourrait, à mon avis, en parler. Hein. Il y a des mecs qui parlent du quartz, cette structure chez certains minéraux, en effet, qui montrent que c'est pas si inerte que ça. Mais bon, là, on a déjà pas mal de problèmes avec le végétal et le minéral, en effet. Mais oui, c'est une question.
Je reviens à l'idée du manifeste. Je rejoins un petit peu Seb, en fait, sur le fait que je ne suis pas en effet d'accord avec tout. Enfin, s'il y avait un manifeste comme celui-là, je ne vais pas être entièrement d'accord avec ce manifeste. Mais j'ai l'impression que le mode de fonctionnement de nos sociétés actuelles, politiques ou sociales, marche avec ce système-là, avec le système de la charte, de la déclaration, et que même si on elle ne répond pas de façon absolue à mes convictions ou à un idéal, je sais qu'il y a une charte de l'environnement qui a été rédigée en France cette année, en début d'année, je crois. Cette charte, évidemment, elle prendra effet, elle mettra des années à prendre effet, mais on est dans une société qui fonctionne de cette façon-là, j'ai l'impression. Et donc moi, je serais pour, enfin, je serais la première aussi à signer une charte des droits des animaux, même si elle ne comprend pas complètement, parce que j'ai l'impression que c'est au moins un pas de porte sur lequel on pourrait s'appuyer, et ça serait un porte-voix qui permettrait de faire un petit peu avancer les choses vis-à-vis d'une société qui s'en occupe pas du tout. J'ai vu dernièrement un autocollant qui disait bah oui, les droits de l'homme, oui, mais les droits de la femme. Voilà. Et ça, c'est des choses, j'ai l'impression qu'ils parlent aux gens. Et c'est dans ce sens-là que je crois que je serais la première à signer un manifeste, une charte pour les droits des animaux. Et puis je voulais rebondir aussi sur le fait de l'utopie qui me semble très importante. Pour moi, les utopies, c'est quelque chose de très important et on ne peut pas faire avancer les choses ou changer le monde sans utopie. L'inventeur de l'utopie, c'est l'utopia. La terre utopia, pour moi, c'est un moteur énorme. Après, les utopies, évidemment, on les atteint jamais, mais ce sont.
C'est aussi une déception.
Oui, peut-être aussi, peut-être. Mais s'il n'y a pas d'utopie, si vous. Si on s'empêche de créer des utopies ou de construire des utopies, pour moi le monde devient terrible.
On peut pas mélanger les utopies.
Il y a de la place pour les utopies.
Et les systèmes qui permettent à.
Non, bien sûr.
C'était pas un autre chose. Un truc que le marxisme avait fait à beaucoup de ces choses, il a conduit à l'utopie communiste et probablement on n'a pas fait avancer beaucoup.
L'utopie ne serait pas.
C'est quand même une relation là, qu'elle retombe sur des lois.
Alors, ensuite, il y a David, Hugo, Dominique, Hélène, et si quelqu'un veut prendre encore la parole, la porte va fermer parce que. Enfin. L'examen est bientôt 6h20, hein. Alors je ne sais pas ce qu'on va faire après, on avait dit qu'on arrêtait en 6h30, donc je ne sais pas.
Oui, c'est bien. Hein? On peut faire une pause et reprendre tout ce qu'il veut.
Oui, on peut faire une pause déjà, et puis bon. Donc là, c'est à David.
Enfin, je reviens un petit peu au sujet. Enfin, à travers cet exemple de la question de la prédation, question de l'évolution de la nature et tout ça, un peu à cette question d'organisation interne, enfin c'est pas le bon mot, mais du mouvement, de rapport à l'intérieur du mouvement, à travers le fait que je pense que même si on n'est pas d'accord, il est important entre nous de se respecter, et pas seulement entre nous, je veux dire que pour moi c'est un principe général, c'est pas juste avec juste avec vous, avec des gens qui êtes animalistes ou qui êtes végétariens. Je veux dire, et respecter, c'est pas simplement pour moi un terme formel. C'est respecter en ce sens de considérer que l'autre, quand il dit quelque chose, c'est qu'il a des raisons de le dire, et que c'est pas quelqu'un qui est totalement fou,
c'est pas quelqu'un qui est l'émule de Pol Pot et qui essaye de voilà. Bon. Tu comprends ce que je veux dire par rapport à ça, et que ces estivales sont organisées de fait, je dirais, par des antispécistes, et que de fait les antispécistes cherchent à ce que le dialogue puisse se faire avec tout le monde. Que moi, mon expérience, c'est que quand on parle de ces questions de nature, moi je comprends les raisons pour lesquelles on peut dire c'est quelque chose de science-fiction. Je comprends qu'on puisse même avoir envie de parler de oui, ça peut conduire à des catastrophes. C'est vrai que l'enfer est pavé de bonnes intentions, et on peut sortir plein d'exemples historiques de choses comme ça. Je comprends, et que c'est une hésitation que j'ai si je me dis je vais changer la nature, oulala, je vais être responsable de on peut parler de tout, que ce soit le barrage d'Assouan ou que ce soit n'importe quel projet qui voulait changer la nature et qui a fait des catastrophes. Mais il n'empêche que j'ai aussi d'autres motivations, et que ma motivation est très simple, et que quand tu dis que c'est des choses qui sont totalement en dehors de la réalité, c'est pas vrai. Je veux dire que moi, quand j'avais 8 ans, j'avais pas lu des grands philosophes, c'était pas simplement des histoires de formalisme, c'était moi face au chat et à la souris, quoi. Et à la souffrance de la souris, que je constatais qu'il n'y avait pas besoin de faire des grands formalismes, et qu'il y avait aussi le fait de me dire, c'était aussi par sympathie pour le chat, que le chat, c'est pas un salaud, c'est quelqu'un qui s'amuse, je comprenais aussi le chat, et que j'étais pas en dehors de la réalité, et que je pense qu'il y a énormément de gens qui sont pas en dehors de la réalité, et qui trouvent aussi que la prédation, c'est quelque chose de dégueulasse. Et je dirais même que le fait qu'il y ait un battage, qu'il y ait une propagande constante en faveur de la prédation à la télévision, c'est-à-dire qu'on ouvre n'importe quel documentaire animalier à la télévision, et bien qu'est-ce qu'on voit ? On voit les lions qui baisent, et on voit les lions qui bouffent les gazelles, quoi. Je veux dire, c'est la nature, ça se ramène à ça. C'est et les deux étant présentés avec le même ton de comme c'est beau, comme c'est jouissif de voir les animaux. Alors que n'importe qui, je dirais, qui n'est pas endoctriné par ce genre de propagande et qui voit le lion qui bouffe la gazelle, et bien il dit c'est dégueulasse, quoi, c'est horrible. Qu'on puisse dire c'est inévitable, et puis moi c'est pareil, hein, je prends pas l'avion pour aller empêcher les lions de faire ça, mais je veux dire que la réaction tripale, immédiate de n'importe qui, à mon avis, qui n'est pas endoctriné, c'est de dire qu'est-ce que c'est horrible, est-ce qu'on pourrait pas quand même essayer de réfléchir à faire ça. Et quand on entend, par exemple, quand moi je vois les manifestations de gens qui vont manifester pour qu'on réimporte des loups, qu'on réimporte des ours dans les Pyrénées, sans tenir compte de la nouvelle de la veille qui est que on a trouvé un troupeau de 40 brebis égorgées, étripées au milieu du champ par un ours, et en considérant que ça n'a aucune importance, je ne les comprends pas, quoi. Enfin, là, c'est moi qui suis sujet à un reproche, c'est qu'effectivement, je trouve que ces gens-là sont un peu extraterrestres par rapport à moi. C'est-à-dire, je les comprends pas. Je peux essayer, je dis qu'ils sont de bonne foi aussi, mais...
Surtout qu'on va chercher les ours, parce qu'on va les chercher, je sais pas où.
Oui, voilà. Bon, alors, on peut être d'accord, pas d'accord, s'engueuler et tout ça, mais enfin, moi, ça m'embête quand même de me faire traiter de Pol Pot.
Mais non, mais c'est pas toi.
Oui, non, mais c'est
si j'ai pu te donner l'impression que je m'en prenais à toi ou à quiconque ici, c'est un certain type de discours qui me fait des échos, si tu veux, dans l'esprit. Mais ça n'attaque pas du tout les personnes qui sont ici. Mais ce type de discours me fait.
Je comprends cette phase de l'angoisse. Tu as dit de l'angoisse. Oui, parler ça. D'angoisse, je comprends que ce soit angoissant.
C'est pas du tout pour m'en prendre. Enfin, je suis vraiment désolé si tu penses que j'ai voulu.
Je comprends que tu dises que ça t'angoisse. Et moi, j'interprète ce que tu as dit comme étant aussi l'effet d'angoisse. Mais moi, ça m'angoisse. Je veux dire que c'est. Je crois que c'est Michelet, c'est un type qui vous fait les animaux et tout le reste, à mon avis. C'est un historien français, mais qui est cité souvent comme ayant dit. Comme ayant dit, le monde animal, mais quelle angoisse, quoi. C'est un océan de souffrance, et c'est un. Ben oui, et ben c'est angoissant d'ouvrir cette porte-là et de regarder dedans et de se dire, mais qu'est-ce qu'on fait, et d'être face à toute cette responsabilité.
En fait, c'est pas par plaisir non plus. Notre propre responsabilité, c'est pas. c'est pas autre chose que notre propre responsabilité d'humain. C'est pas, on n'est pas responsable du monde comme il est. On est responsable de ce qu'on fait nous, notre place dans ce monde.
Et de ce qu'on ne fait pas aussi. Je voulais aussi, y a eu des réponses par rapport à ça, par rapport aux questions de la prédation, base de l'évolution et tout ça. Pour moi, ça me paraît être un point de vue. Il ne faut pas non plus considérer que quand nous parlons de ces questions-là, on est forcément totalement ignorant des choses. Je veux dire qu'on sait très bien. Enfin, moi, j'ai entendu 50 fois l'exemple de si on laisse pas les loups manger les caribous vont manger toute l'herbe. Il y aura plus d'herbe et les caribous vont tous mourir. Bon ben, comme par hasard, on dit toujours les loups, les caribous, et en réalité, si on cherche cet exemple d'où il vient d'un exemple précis d'une ville où quelque chose comme ça est arrivé. Mais pourquoi est-ce qu'on cite toujours le même exemple? Parce qu'en réalité, je pense qu'on n'a qu'un seul exemple à se mettre sous la dent de ce truc-là. Et quand on résume toute la nature et toute la problématique de la prédation à ça, c'est extrêmement simplificateur, quoi. Je veux dire, et... De quel droit les loups mangent les caribous? De quel droit les caribous mangent l'herbe? De quel droit on respire? De quel droit... Pardon?
Pourquoi on a décidé en tant qu'humain, il est bientôt des humains, pourquoi un jour l'humain a décidé de détruire tous les loups?
Parce que l'eau, il ne sert à rien, l'être humain, mais les moutons, ils servent à quelque chose.
Je ne comprends pas la question.
Oui, mais ne parlons pas de loups et de moutons, parlons de bactéries, si vous voulez.
Et pourquoi vous pouvez pas mettre dans l'idée que cette arme dont on parle, je ne sais pas si vous avez déjà le film sur la guerre des mondes.
Comment ?
La guerre des mondes. La guerre des mondes. C'est-à-dire qu'on est des humains, on est une espèce qui peut être consommée, injurée. Pourquoi pas demain, il y a peut-être une entité quelque part qu'on ne connaît pas qui va débarquer, qui va tous nous bouffer. Toutes nos belles théories là qu'on est en train de sortir, c'est du pipeau. C'est du pipeau. Parce que si un jour on se fait envahir par n'importe quel. On va se faire manger, qu'est-ce que. Tout ce qu'on dit là sur le fait de préserver les animaux, de les empêcher de manger hors
mais non, mais on leur présentera le manifeste. C'est ça,
on va comprendre. On n'est pas qu'une seule personne. On n'est pas mis comme ça, posé à un endroit et on va dire toi, tu n'as pas le droit de manger ici, toi, tu n'as pas le droit de manger ici. Ça ne peut pas être. Parce qu'on ne sait pas s'il y a au-delà de l'univers, et demain, il peut y en avoir qui vont débarquer. On dit,
je comprends pas pourquoi il faudrait dire à la souris, enfin je me vois mal expliquer à une souris, je vais laisser le chat te manger parce que demain il est possible qu'il y ait des extraterrestres qui débarquent. Des fois on me dit que je fais des raisonnements en dehors de la réalité, mais.
C'était un exemple à une autre chat qu'il a donné, c'était.
Oui, mais je veux dire que.
Exemple, il faudrait parler
de
la grenouille qui mange la mouche.
Oui, non, mais pour dire.
De quel droit la grenouille mange une mouche ?
L'histoire d'être en dehors de la réalité, je parlais de moi à 8 ans, mais je ne suis pas le seul à 8 ans hein, qui ait voulu arrêter de manger les animaux parce que les animaux souffrent et qui ait conçu l'idée d'égalité. C'est-à-dire l'idée d'égalité, ce n'est pas forcément quelque chose d'une construction intellectuelle complexe, l'idée d'égalité. Je dirais que c'est quelque chose que je définirais de façon négative, qui est que c'est pas parce qu'un animal est né dans une espèce qu'une autre que ses intérêts importent moins. C'est pas une histoire de.
Mais l'intérêt de tout un chacun, c'est sa survie.
Nos territoires, il faut survivre, et quand on enlève tout en animal, quand il n'y a plus d'arbres pour se mettre à l'abri, quand il n'y a plus rien autour de lui, comment il fait l'animal?
Oui, je ne sais pas, je n'ai pas parlé d'enlever les arbres.
Ah si, parce que dans votre discours, vous attaquez l'écosystème, alors forcément, tout rentre en
compte. Il y a des espèces qui vivent que dans les arbres.
Après qu'on prenne le temps de parole, parce que ça
va...
Oui, c'est ça. Moi aussi, oui. Bon, le dernier, bon, enfin, voilà, deux derniers mots sur
attends, oui. David, excuse-moi, c'est toi, David, après c'est Hugo, Dominique, Hélène, et on fait une pause.
Bon, alors donc, deux trucs. D'abord, sur les veaux, qu'il ne faut pas faire parler des veaux, là, je suis totalement en désaccord, quoi. C'est-à-dire que, pour moi, les veaux, ils parlent, je veux dire, c'est clair, ou les veaux, ou les vaches, quand elles meuglent, on leur enlève leur petit, elles meuglent, elles veulent
oui,
que le petit, on leur rende.
Non, mais
arrête,
il ne faut
pas leur faire tenir
des discours.
Entendre, c'est une chose, bien sûr.
Ben, entendre leur discours, enfin, je ne sais pas ce que tu appelles discours. Enfin, moi, je peux parler aussi de l'exemple que Coetzee, c'est un écrivain bon, qui a parlé du fait que la peine de mort a été abolie en France à cause du cri d'un coq. Bon, maintenant, on peut trouver ça, c'est effectivement un peu exagéré d'une certaine façon, mais il dit que Camus, Albert Camus, qui a écrit un des pamphlets qui est historique contre la peine de mort, c'est quelqu'un qui a été dégoûté de la peine de mort par le cri d'un coq qu'il a entendu se faire égorger quand il était gamin. Bon, et il a entendu ce cri, le cri de ce coq. Je veux dire, le cri de ce coq, il disait quelque chose. Il disait non, ne me tue pas. C'était une protestation contre la violence. Alors, quand on dit que les animaux peuvent pas parler, je veux dire, moi je dis à un certain niveau, les animaux, on ne veut pas les entendre. Et je voulais juste dire, le dernier truc que je voulais dire, c'est par rapport à la notion de sensibilité. C'est vrai que c'est très bien des fois de bien définir les termes dont on parle quand on discute. C'est bien de faire quand on peut leur donner une définition très précise, mais moi, on peut très bien dire passe-moi la chaise sans avoir fait une définition totalement parfaite de la chaise. Et d'ailleurs, je pense que personne d'entre vous, ni moi, ne serions capables de définir de façon parfaite une chaise. Maintenant, la sensibilité, je pense que c'est bien de dire un peu de quoi on parle, mais sans faire forcément qu'on exige d'avoir une définition en béton, d'autant plus que je pense qu'aujourd'hui, la science, la connaissance qu'on a aujourd'hui du monde ne permet pas de faire une définition en béton de la sensibilité. Et je pense que la définition qu'a donnée Jamal de la sensibilité, c'est quelque chose de quand même très clair pour chacun d'entre nous. Je veux dire, nous ressentons les choses. Je veux dire, Jamal a parlé de la...
Du fait de ressentir du plaisir ou de la douleur.
Le plaisir, la douleur. Moi, je dirais aussi la sensibilité de façon plus générale, c'est de ressentir quelque chose comme la lumière, mais pas simplement de pouvoir réagir à la lumière. Je veux dire, c'est clair qu'une balance, on dit parfois qu'une balance est sensible quand elle est très sensible au petit poids qu'on met dessus, mais c'est pas dans ce sens-là qu'on parle de sensibilité. On parle de sensibilité simplement de voir la lumière du jour, de ressentir les couleurs, de ressentir aussi qui a une importance au niveau éthique, qui est la souffrance, la douleur et le plaisir. Et que dire que cette notion-là n'est pas très claire, je pense qu'elle n'est pas très claire effectivement à un niveau scientifique, comment la définir. Par contre, je pense qu'elle est suffisamment claire pour chacun d'entre nous, pour que nous sachions de quoi nous parlons, et que la question de savoir est-ce qu'une plante est sensible ou pas dans ce sens-là, c'est une question dont on peut débattre, mais dire que c'est une frontière qui n'a pas, que c'est un sujet dont on ne doit pas parler parce que on ne connaît pas la réponse à un certain nombre de questions, et ben, je sais pas, je veux dire, il y a plein de questions auxquelles on ne connaît pas la réponse. Je veux dire, moi, je ne connais pas la réponse de savoir est-ce que c'est mieux ou pas d'apporter de l'aide à un pays du tiers-monde quand il meurt de faim, ou est-ce que c'est mieux de ne pas leur apporter de l'aide parce que l'aide peut être un peu les maintenir dans l'indépendance. Enfin, il y a plein de questions que dont je ne sais pas la réponse pratique. Je ne sais pas la réponse pratique à la question de savoir si une mouche est sensible ou pas. Par contre, ce que je sais, c'est que si une mouche est sensible et que si elle souffre, sa souffrance a une importance.
Une amibe.
Oui, une amibe. Moi, je suis convaincu que les amibes ne sont pas sensibles, mais je maintiens que si une amibe est sensible, eh ben, sa souffrance elle a une importance. Et il me semble important de poser ça comme point théorique, même si nous n'avons pas la réponse pratique à cette question-là, de la même façon qu'il est important de poser comme point théorique que tous les humains devraient avoir à bouffer dans le monde, même si on ne sait pas, en pratique, où en faire pour qu'il l'ait, quoi. Voilà.
Alors, Hugo, Dominique, Hélène, Gilles, et après pause. Hein. Ok, Gilles, t'es dernier à parler.
C'est-à-dire, on touche à l'unicellulaire avec les vies, elle s'arrête.
Hugo.
Hugo.
Et justement, pour répondre à la question soulevée par le monsieur tout à l'heure par rapport à la prédation, donc je crois qu'il n'est pas en possession de certaines informations comme quoi le système basé sur la prédation est tout à fait faux à la base, enfin serait faux, selon certaines recherches menées par certains chercheurs. Bon, pour avancer l'hypothèse selon laquelle la vie serait basée sur un système de prédation, bon, il y a certaines personnes qui ont émis c'est même plus des hypothèses, puisque vous affirmez que ça fonctionne de cette façon-là, alors qu'il y a d'autres chercheurs qui démontrent tout à fait l'inverse. Et moi, je serais plutôt tendance à dire que en menant certaines recherches par rapport à des gens qui ont été très loin dans le passé, eh bien, ce qui est considéré comme des utopies n'est pas du tout, quoi. Et en fait, un système qui serait basé sur l'alimentation végétalienne, voire l'abstention complète de nourriture, puisque bon, il existe à l'heure actuelle des gens qui témoignent comme quoi ils s'abstiennent depuis très très longtemps de nourriture. Donc là, on recourt en fait à l'alimentation selon ce qu'on considère dans certaines spiritualités comme la prana, donc c'est-à-dire le principe de vie. Donc ça serait pour dire que ce qu'on appelle utopie n'est pas du tout, quoi, en fait. Donc en fonction des informations que l'on a en sa possession, on peut considérer comme utopie ce qui n'est pas pour certaines personnes qui vivent des réalités que d'autres personnes ne connaissent pas. Donc il est très dangereux d'affirmer et de faire croire aux gens que certains modes de vie ou certaines conceptions de vie peuvent représenter un danger pour l'ensemble de la société. Donc là, je réponds à votre peur par rapport à certaines conceptions de vie, entre autres celle qui est la plus généralement connue, donc l'exemple qui a été donné, l'agneau et le loup qui cohabiteront. Bon, en fait, ça peut aller au-delà de ça, quoi. En fait, un monde, entre guillemets, pacifiste, est tout à fait réalisable et peut être vécu même à l'heure actuelle, quoi. Mais c'est vrai qu'en sachant qu'il y a beaucoup de violence et d'injustice, entre guillemets, ben, on a chacun des moyens pour pouvoir intervenir afin que ce qu'on peut considérer comme des sources de mal-être en soi change. Et entre autres, bah, à mon niveau, j'essaie de manger plus que des fruits pour l'instant. Peut-être un jour que je ne mangerai plus rien du tout, mais je peux témoigner à l'heure actuelle que ne manger que des fruits est tout à fait possible, à l'exclusion de tout ce qui est carné, dérivés animaux, etc. Et c'est pas pour ça que je m'en porte plus mal. Bon, certaines personnes me disent que tu vas avoir des carences à long terme, mais pour l'instant, moralement et physiquement, je le supporte très bien. Et je découvre certaines possibilités que je ne connaissais pas du tout avant de connaître cette façon de vivre. Donc voilà pour dire qu'il faut être très prudent par rapport aux informations qu'on fait passer. Et d'un autre côté, bon, moi je suis tout à fait en harmonie morale par rapport au papier qui a été transmis, donc c'est-à-dire le principe du respect de la vie en soi-même. Mais c'est vrai que comme il y a l'étiquette antispécie et que l'antispécie se base sur le fait de savoir est-ce qu'un être est sensible ou pas, là, moi, bon, je me dis que la question importante, c'est est-ce que l'être humain a le droit de doter la vie à un être vivant sans savoir si l'être vivant est sensible ou pas, puisque, bon, on peut prendre un être sensible, quel qu'il soit, un être humain, ben, si on lui injecte de l'héroïne, ben, il sera plus sensible. Donc, à ce moment-là, on peut lui mettre une balle dans la tête. Donc, pour dire, comme pour moi, la question essentielle, c'est d'abord, est-ce qu'on a le droit de tuer ou pas, quand même.
Dominique ?
Oui, moi j'avais levé la main, mais c'était au moment où le débat devenait un peu conflictuel peut-être, et donc je voulais intervenir un peu sur le même registre que David, qui l'a très bien fait, donc je propose de passer mon tour dans la vidéo. C'est plus d'actualité.
Alors, Hélène ? Hélène ? Elle est partie ? Elle a passé son tour.
Elle a
passé son tour. Voilà, ça agit. Et puis après, enfin,
mec. Moi, j'ai entendu beaucoup de contradictions et effectivement,
conflit, je pense qu'il faut vraiment resserrer sur ce qui est important, me semble. On a déjà du mal à essayer de cadrer nos pensées et nos objectifs, ce qu'on cherche à obtenir, en essayant de se baser que ce qu'il y a sur Terre. Alors si en plus on peut intervenir les extraterrestres, ça va compliquer les choses. Mais moi, il y a un concept qui me plaît beaucoup, c'est le concept de moindre douleur, correction de moindre douleur. Je sais que si je mange une carotte à l'heure actuelle, je produis moins de douleur que si je mange un animal, même un poisson. Si je mange un poisson, je produirai sans doute moins de douleur, encore que ça demande à être bien étudié, que si je mange un poulet ou un lapin, et ainsi de suite. C'est pour ça que je dis ça demande à être étudié. Mais sur ça, le concept de moindre douleur et la sensibilité des êtres vivants, on peut s'entendre biologiquement. Les scientifiques, enfin, encore là aussi, qu'est-ce qui est scientifique, qu'est-ce qui n'est pas scientifique, mais il y a des faits, on va dire, qu'on peut observer en termes de physiologie, et c'est important, à mon avis, de resserrer sur ça, et le débat, il est là, en fait, et essayer de faire passer ça au prix de la population. Parce que c'est vrai que quand on dit qu'on est végétarien, on est regardé d'un drôle d'œil. Si en plus on dit qu'on veut que le chat arrête de manger des souris, c'est encore plus compliqué. Là, je pense qu'on va un petit peu trop loin dans certains cas aussi. C'est-à-dire que, on parlait. Ce qui est important aussi, c'est de dénoncer, je pense, la manipulation médiatique. Parce que c'est vrai que quand on regarde les documentaires animaliers, et là, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait David, on voit quoi ? On voit un animal, un lion qui tue une gazelle, qui bouffe une gazelle, parfois qui copule, mais c'est surtout qui tue, dans le sang, dans le machin. En fait, un lion, quand il tue un animal, ça arrive une fois tous les 3 mois. Et le reste du temps, qu'est-ce qu'il fait ? Il dort, il va boire à côté de la gazelle, parce que comme il ne manifeste pas un comportement de chasse, la gazelle est à quelques mètres et elle ne mange pas. Mais ça, c'est pas télégénique, c'est pas quelque chose qui va marquer les esprits, c'est pas quelque chose qui va vendre. C'est-à-dire que si vous allez...
C'est surtout pas dans l'ambiance du temps.
C'est pas un problème. Ouais, c'est pas. Je pense que c'est plus un problème de.
C'est pas la beauté sauvage.
Voilà, c'est pas. Oui, mais c'est la beauté sauvage. Si, c'est une beauté sauvage. Moi, c'est sauvage, c'est un milieu sauvage, et c'est beau de voir une gazelle à côté d'un lion, voir au même point d'eau. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, c'est pas vendable. C'est pas vendable. Si vous allez avec un documentaire où vous avez des heures de lion qui dorment, et quelques minutes où ils vont boire ensemble avec une gazelle, et quelques millisecondes avec une gazelle, en fait, on va couper tout le reste parce que c'est pas vendable. Et on va garder la vie. Donc, ce qu'il faut, à mon avis, dénoncer, c'est ça. C'est le merchandising qu'on fait de la planète et du vivant, et la notion de profit. Parce que quand on gratte, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Il y a toujours une notion de profit. Pourquoi est-ce qu'on essaie de fermer les yeux et de manipuler les cerveaux des jeunes enfants en essayant de leur faire croire que le steak haché, c'est quelque chose qui est sous cellophane, qui s'achète en grande surface et qui est absolument pas sensible? C'est parce que derrière, ça rapporte à des gens. Donc, à mon avis, c'est plutôt là, c'est essayer de gratter et de voir à qui ça profite et pourquoi ça profite. Et si on tient ce discours-là, on est peut-être un peu plus entendu en disant, en dénonçant justement les non-vérités.
Je ne comprends pas que vous ayez détourné la question comme ça. La prédation, on a parlé du loup ou du lion parce que c'est spectaculaire, mais la prédation, c'est au niveau le plus bas. Si le mouton ne bouffe pas de l'herbe, il ne vit pas. Et si les mouches ne mangent pas.
Mais ça aussi, ça dit.
C'est au plus bas. Dans toute l'échelle de l'évolution, la prédation joue un rôle primordial.
Non, ça c'est là qu'il faut. C'est-à-dire que ça aussi, ce que vous dites là, pourquoi ? Parce qu'il y a eu, encore une fois, un lavage de cerveau. On fait croire à la théorie de l'évolution comme un fait. Et la théorie de l'évolution est devenue un dogme. Mais elle est dénoncée par la plupart des scientifiques. J'ai entendu parler tout à l'heure de collaboration, mais c'est vrai, entre le mouton et l'herbe, il y a de la collaboration.
L'évolution repose du bas en haut de l'échelle sur la nourriture.
Ah,
hein? Et la nourriture, c'est quoi? C'est au plus bas niveau, c'est l'herbe, puis un peu au-dessus, c'est,
la nourriture,
c'est les vivant. Insectes qui bouffent l'herbe.
Ça, c'est une vision macroscopique, ce que vous dites.
Expliquez-moi une évolution, expliquez-moi un système évolutif sur la Terre qui ne repose pas sur la nourriture. Et expliquez-moi ce que c'est que la nourriture si ce n'est pas des choses matérielles. Expliquez-moi.
Alors, qu'est-ce qu'on va manger,
jusqu'à maintenant, les gens, ils n'ont pas vécu en bouffant de la Terre. Mais n'importe quoi, je me demande pourquoi on a parlé du loup et du lion. Ne parlons pas du loup et du lion. Parlons, il y a quelques siècles, en Nouvelle-Zélande, non, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une île sur laquelle des naufragés sont restés 6 mois, elle est un peu à l'écart des routes maritimes, et ils ont failli en crever. Et quand on les a sauvés de là, ils ont dit, on ne va pas être fous, pour les prochains à qui ça arrivera, on va mettre un couple de moutons. Et ils ont mis un couple de moutons. Et quand ils sont revenus quelques années plus tard, eh bien, la végétation de l'île, elle était rasée. Et les moutons, il n'y en avait plus que 2 ou 3 malades qui traînaient dans le coin. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi?
Tout est
bâti là-dessus.
J'ai entendu tout à l'heure parler de collaboration. Ce qui est vrai, quand on regarde un écosystème, il y a beaucoup plus de collaboration que de prédation. C'est-à-dire, vous prenez l'exemple du mouton, quand par contre on dérègle un écosystème en introduisant des espèces qui n'ont pas, qui n'ont pas de niche dans un écosystème donné, voilà. C'est-à-dire quand l'homme intervient, voilà. Là, oui, on peut entraîner des erreurs de cet ordre-là. Mais pourquoi? Parce que l'homme est intervenu, pourquoi? Par intérêt, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, voilà, encore une fois, donc on a mis un couple de moutons, pourquoi? Par intérêt, pour rechercher à obtenir des, je ne sais pas, enfin, c'est l'exemple que vous donnez, mais c'était uniquement par intérêt. Quand on regarde la vie, comment est-ce qu'elle se réalise dans la nature quand l'homme n'intervient pas, c'est de la collaboration. C'est-à-dire que l'herbivore va manger un végétal, mais il collabore au végétal. Sans l'herbivore, le végétal ne pourrait pas vivre parce qu'il n'y aurait pas d'humus, il n'y aurait pas d'éjection de l'herbivore, il n'y aurait pas d'humus, il n'y aurait que un sol stérile. Et si on va au niveau de la bactérie, ce même principe de collaboration existe. C'est-à-dire que vous ne serez pas vivant si vous n'aviez pas à l'intérieur de votre intestin des millions de bactéries qui vous colonisent et qui vous permettent de survivre.
Non, mais ça, c'est bien sûr.
Donc c'est de la collaboration à 99,99%. C'est exactement comme le documentaire animalier où 99,99% le lion dort. Il va boire et copule et joue. C'est tout. Il y a 0,01% où il chasse. De la même manière, la prédation, c'est exactement ça, à tous les niveaux, au niveau cellulaire, pareil. Sur votre surface de peau, quelques centimètres carrés de peau, il y a des millions de virus, de champignons et de microbes. Mais une grande partie, c'est de la collaboration.
Oui, mais vous lui donnez un autre nom.
Et par contre, c'est pas un autre nom, c'est un concept opposé. La collaboration, c'est de la paix, c'est de l'entraide. C'est l'harmonie.
Oui, mais la chaîne alimentaire, c'est aussi une donnée.
Oui. Mais là, je rejoins aussi ça. Je disais, j'ai oublié son nom. Il y a des utopies auxquelles il faut s'accrocher. C'est-à-dire qu'il y a quand même des êtres aussi, il a juste effleuré, mais il y a des êtres qui vivent sans boire ni manger et qui parviennent à vivre sans boire ni manger. Alors, bien sûr, ça, c'est un discours qu'on peut tenir ici, et je le tiens parce que quelqu'un l'a dit avant moi. Sinon, je ne l'aurais pas tenu. Et ça, ce sont des utopies auxquelles on peut tendre, enfin, qu'on peut garder en tête. C'est une réalité. Il y a une réalité de...
Mais la limitation aussi.
Mais oui, mais alors, c'est une réalité. C'est une réalité. Par contre, à l'heure actuelle, là, moi, je ne suis pas dans cette réalité. Cette réalité-là ne m'est pas accessible. Il est devant moi parce qu'il arrive à vivre en mangeant que des fruits. Moi, cette réalité-là ne m'est pas accessible. Par contre, dans la réalité qui m'est accessible, c'est d'essayer de produire le moindre douleur. Donc, quel est mon choix? Quel est mon choix de survie à l'heure actuelle? C'est d'essayer de produire le moins de souffrance et de douleur. Voilà. Et ça, c'est faisable. Donc, effectivement, j'empêche mon chat de manger des souris.
Oui, mais c'est... parce que vous le nourrissez avec des croquettes. Si vous le mettez dans la nature, il mangera
des souris, certes. Mais moi, là, ce chat-là, j'en ai la responsabilité, donc je suis dans un choix. Est-ce que je le laisse manger des souris ou est-ce que je ne laisse pas manger des souris? Je suis devant un choix. Et peut-être que je vais faire crier certaines personnes, mais on a déménagé, on a habité une maison, et j'étais dans l'obligation de tuer des souris.
J'étais dans l'obligation, j'étais devant un choix. Qu'est-ce que je fais? Je déménage ou alors je laisse tout envahir? Les gens qui ont habité là avant moi avaient tellement d'hygiène qu'on était envahis. On ne pouvait plus dormir. Les souris faisaient un tel raffut qu'on ne pouvait plus dormir. J'ai commencé par mettre des pièges pour essayer de les mettre dehors. Je leur ai demandé de partir, elles ne m'ont pas écouté. J'ai fait tout ce que j'ai pu, j'étais devant le choix. Et le choix était kafkaïen pour moi, mais c'était pour moi le moins de souffrance, c'était malgré tout de les tuer, parce qu'il y en avait énormément, trop, et je ne pouvais pas vivre dans ces conditions-là. Et ça aurait été beaucoup plus de souffrance qui me concerne. Alors là, c'était d'un point de vue égoïste, peut-être que d'autres ici auraient déménagé, mais moi, c'était trop de souffrance, j'avais pas les moyens, je ne pouvais pas déménager. Je ne pouvais pas laisser les souris envahir tout. Si ça se trouve, elles nous auraient rendu malades, etc. Donc c'est vrai que, pourquoi il y a eu ça? Parce que là, pareil, il y a eu un équilibre qui n'a pas été respecté. Les gens qui étaient là n'avaient pas du tout cette notion de, justement, conception de moindre douleur, moindre souffrance. Et du coup, ils n'avaient pas la moindre hygiène. Ils ont laissé les souris envahir. Ils n'avaient pas ce qu'il fallait faire. L'hygiène, c'est aussi une conception de moindre souffrance. Parce que quand on pousse l'idée de non-violence jusqu'à l'extrême, il y a des sectes en Inde qui vont jusqu'à refuser de se laver pour ne pas tuer ces fameux microbes qui sont sur nous. Mais ils développent une telle odeur et du coup ils disséminent des épidémies. Ils sont insupportables pour le voisin parce qu'ils puent. Je veux dire, ils créent de la souffrance. Donc, c'est moi, ma façon de, on va dire, mes choix, c'est essayer d'aller vers un concept de moindre souffrance. Et si on garde ça, à mon avis, en tête, et de se dire à qui ça profite, pourquoi les choses se font, ça permet déjà de choisir et de sélectionner dans notre choix.
C'est la pause là.
C'est la pause.
C'est la pause, c'est la pause.